Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, et donc bienvenue dans Trou Noir, et notre studio est plein à craquer, enfin, on pourra encore accueillir quelques personnes quand même. Mais voilà, nous avons quatre invités aujourd'hui pour nous intéresser avec Serge et Monique à la réédition d'un roman qui s'intitule Le Boucher des Hurlus, paru chez Ronce Éditions, et dont Jean Mecker est l'auteur. Alors, une petite introduction à ce dont nous allons parler avant de faire un petit tour de table de nos invités. Alors, quand il s'est engagé dans la réédition de Le Boucher des Hurlus, Quentin Ganteil, donc de Ronce Éditions, n'imaginait sans doute pas de publier un livre d'actualité. Je force un peu le trait. Et pourtant, l'excitation guerrière de ces derniers jours éclaire sous un jour singulier ce roman de Jean Mecker, publié en 1982 sous le nom de Jean Amila dans La Série Noire, la mythique collection de romans policiers de Gallimard. De quoi s'agit-il dans ce roman? Un petit résumé. 1918, Michou, 8 ans, est à la tête d'une bande d'orphelins de guerre. Rongé par l'esprit de vengeance, il part à la recherche du boucher des Hurlus, le général qui a fait fusiller son mutin de père afin de lui rendre la monnaie de sa pièce. Pour saluer donc cette très belle édition illustrée par Saint Molotov, Trou Noir consacre une émission à Jean Mecker, écrivain singulier en passe d'être redécouvert. Et pour ce faire, nous recevons non pas un, comme je vous l'ai annoncé, mais quatre invités. Alors moi, je vais commencer par la gauche. Donc d'abord Quentin pour Ronce Éditions, Quentin Ganteil. Quentin Ganteil, pardon, excuse-moi, je l'ai écrit tout à l'heure, et voilà, évidemment, je me trompe. Voilà, Quentin pour Ronce Éditions, Saint Molotov, illustrateur, Hervé Delouche et Stéphanie Delestrée, directrice de La Série Noire de chez Gallimard, justement. Alors, peut-être pour dire deux, trois mots, je vais vous laisser vous présenter les uns et les autres, et peut-être nous dire un peu voilà, ce que vous faites dans la vie et comment vous êtes intéressé à Jean Mecker, aussi Jean Amila, suivant là où il a commencé à publier. Peut-être on commence par Stéphanie.
Bonjour, comme vous venez de le dire, je dirige aujourd'hui la Série Noire, mais à l'époque où j'ai découvert Mecker, j'en étais pas du tout là, et j'avais même pas la moindre idée que je deviendrais directrice de cette collection un jour. À l'époque, j'étais à l'université, et pour un mémoire de DEA, on dirait aujourd'hui master, mmh. Absolument, de Master 2. Après avoir lu le journal de Manchette, je me suis intéressée à Jean Mecker, dont Manchette parle dans ce journal, et dont il loue Les coups, qui est donc le premier roman de Jean Mecker que je me suis procuré parce qu'il était totalement indisponible déjà à l'époque, que j'ai lu avec passion, et puis j'ai cherché d'autres romans. Et puis je les ai trouvés dans les bibliothèques parce que tout était épuisé et coûtait assez cher d'occasion. Et puis un jour de salon du livre, et c'était il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré Hervé Delouche, ici présent, avec qui on a passé, une soirée à parler de Mecker et de ses romans sous son pseudonyme de Jean Amila quand il publie à La Série Noire, et puis à se mettre en tête de faire rééditer cet auteur. Voilà, donc ça nous a accaparé pendant quelques années. Heureusement, pas que ça. Et puis voilà, et puis moi j'ai une carrière professionnelle un peu, qui était un peu, je sais pas, houleuse, je sais pas, non, c'est pas houleuse, c'est pas le mot qui convient, mais bref, j'ai fait plein de choses.
Avec des rebondissements.
Voilà, merci, de nombreux rebondissements, jusqu'à, j'espère, avoir trouvé le rebond final chez Gallimard, et terminé tranquillement. Et je laisse la parole à ma collègue.
L'enchaînement est tout trouvé, effectivement, Hervé, pour nous dire.
Oui, absolument. Moi, je suis correcteur dans l'édition depuis une trentaine d'années, mais j'ai découvert, je suis nettement plus âgé que Stéphanie, j'ai découvert Jean Amila d'abord, parce que je commençais à m'intéresser aux romans noirs, et notamment aux romans noirs français à la fin des années 70, début 80. Donc, en 82, je découvre Le Boucher des Hurlus, et puis je découvre à la suite La Lune d'Omaha, et puis d'autres titres, et parallèlement un libraire du 13e chez qui j'avais mes habitudes me dit écoute, tu devrais lire aussi, et il me passe les coups, et puis en édition d'occasion, nous avons les mains rouges, voilà. Puis après, je m'intéresse évidemment aux deux aspects du personnage, et puis, comme l'a très bien raconté Stéphanie, c'est une rencontre au début des années 2000 qui fait que tous les deux, on s'est dit qu'il fallait rééditer Jean Mecker, dont on ne pouvait trouver que les coups en folio. Voilà.
Ouais. Et même pas à l'époque.
Non, c'était... Le reste était introuvable, et puis on a trouvé une éditrice magnifique, Joëlle Losfeld, et puis l'aventure. Ça a été une aventure de 20 ans, avec 10 titres, puisque le 10e va être publié au mois de mai, La Vierge et le Taureau, voilà.
Très bien, alors peut-être je précise qu'effectivement, Mecker est né en 1910, on va donner sa biographie un peu plus largement, mais peut-être pour commencer à avoir 2-3 rapports, il est né en 1910, il est décédé en 1995, et son dernier roman a été publié fin 80 dans la série
85, je crois.
85, oui.
4 ou 5, oui.
Voilà. Donc quand Hervé découvre les premiers Amila, c'est au moment de leur sortie.
Oui, c'est au moment de leur sortie. Après, j'ai découvert des livres antérieurs. Enfin, voilà. Parce que c'est pareil, j'ai trouvé d'occasion chez des bouquinistes ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, c'est là où il y a eu un retournement. On en parlera sans doute avec, évidemment, le travail de Quentin et de Saint-Molotov, mais de Ronce Édition. C'est qu'à l'époque... n'était connu en fait que Jean Amila, qui était connu de tous les gens qui se passionnaient pour le polar et pour qui et pour des auteurs aussi pour qui Amila avait été un précurseur, enfin quelqu'un d'important. Et depuis, il y a eu un retournement, mais Kerr est plus connu aujourd'hui, je crois, qu'Amila. Mais voilà. Mais effectivement, on joue toujours sur ces deux côtés
deux
noms,
ces deux signatures.
Oui.
Alors peut-être pour continuer notre tour de table, Saint-Molotov, donc illustrateur de cette réédition du Boucher des Hurlus. Alors toi, comment as-tu découvert cet auteur? T'as découvert Amila ou t'as découvert Mecker?
J'ai découvert du coup le livre et l'auteur par Quentin, en fait, que j'ai rencontré lors d'une exposition à Poitiers, où j'exposais des mouchoirs... en tissu dessiné au Siobi, dans l'esprit des prisons qu'il y a au Mexique. On s'est rencontré à cette expo et je l'ai tatoué plusieurs fois, car en plus de l'illustration, j'ai une partie de mon travail qui est axée sur le tatouage, quoi. Et du coup, j'ai découvert avec plaisir cet écrivain que je connaissais pas du tout, parce que moi, je suis plutôt axé sur le Moyen-Âge et un peu la Renaissance. Du coup, c'est bien loin, même la guerre 14, de ma routine, littéraire.
C'est pas les massacres que tu connais le mieux, quoi.
Non, il y en a d'autres qui sont pas mal non plus, et des généraux aussi. Mais du coup, j'ai dû faire un gros travail de recherche iconographique et vraiment parce que je maîtrisais pas du tout mais c'était une gageure qui m'a fait plaisir de relever, parce que la lecture du texte vraiment m'a plu, le ton, j'ai trouvé que c'était très émouvant et que c'était abordé d'une manière assez naïve, mais avec une profondeur quand même dans le fond. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Et j'avoue que je l'ai lu assez d'une traite, quoi. Donc j'aime bien quand c'est un roman comme ça, ça m'a assez passionné, enfin même totalement. Et du coup, j'ai dit oui à Quentin avec plaisir. Et après, on a collaboré. Tous les dessins étaient faits sur papier calque. Donc parfois on peut les exposer. On voit les croquis aussi qui ont été faits aussi sur papier calque. Parce que je travaille beaucoup comme ça, même pour le tatouage. Et c'était aussi une volonté de pouvoir les montrer. Parce qu'il y a d'autres projets d'illustration où les gens veulent qu'en digital parce qu'ils ne vont pas l'exposer. Et juste pour faire un petit parallèle pour expliquer mon nom, pourquoi Saint-Molotov, c'était lié à une exposition qu'on avait fait pour la Biennale d'Art les Normes à Lyon avec la galerie La Rage. Et en fait, c'était un parallèle qui avait été fait avec Saint-Rita, qui est dans la religion, les gens mettent une bougie pendant 9 jours et prient. Et on se disait que le cocktail Molotov, c'était un peu la même. Les gens désespérés utilisaient le cocktail quand ils avaient plus de... il leur restait plus de moyens d'expression. Ils utilisaient ça, donc on avait fait un parallèle. Du coup, j'avais fait une série de tableaux autour de ça. Puis après, le nom est resté...
D'accord. En général, on prie pas pendant 9 jours.
Non, avec le cocktail, beaucoup moins. Il faut même aller assez vite quand on le fait, sinon ça finit mal. Mais c'est juste pour expliquer un peu d'où venait le nom.
Saint-Molotov priait pour nous.
C'était ça, à l'époque, c'était même pour nous mettre un coup de pied, je pense. Pour aller de l'avant, je tombe avec ce cocktail, il fallait aller vite. Et je pense qu'il y a des luttes qui méritent d'aller assez vite. Il y a un temps pour la discussion et un temps pour l'action.
Assurément.
Voilà.
Et donc Quentin, puisque c'est toi qui as initié cette réédition du Boucher de Hurlu, comment es-tu arrivé à ce texte-là?
Alors, je vais commencer par présenter rapidement Ronce et puis ensuite je vous dirai comment je suis arrivé à Mecker. Donc Ronce, je crée la maison tout seul en 2019 et parce que je voulais essayer de faire de l'édition tout seul et on me l'avait conseillé aussi, d'autres éditeurs me l'avaient conseillé. Donc j'essaie de faire de l'édition tout seul en 2019 et je publie un premier texte qui est un texte d'un révolutionnaire russe que les auditeurs et auditrices connaîtront certainement, qui est le Catéchisme du révolutionnaire de Sergueï Netchaïev. Donc c'est un très court texte qui se présente sous la forme de paragraphe principe. Et je voulais qu'il y ait quand même un lien avec la littérature, parce que je ne voulais pas publier de sciences humaines vraiment. Et le lien avec la littérature, là, c'est que Netchaïev, il a inspiré les démons de Dostoïevski, en tout cas des personnages des démons de Dostoïevski. Donc voilà, donc je commence par ça. Ensuite, je fais une grosse pause, parce qu'il faut de l'argent, et puis il faut... lire beaucoup aussi pour faire de l'édition. Enfin, il faut de l'argent, un petit peu quand même. Et en 2023, je publie deux livres, deux romans, un d'un auteur qui est décédé maintenant, qui s'appelle Denis Belloc, et un autre d'un auteur qui est encore vivant, qui est le seul du catalogue, du petit catalogue de Ronce, qui s'appelle Alexis Liena. Et donc en décembre 2024, je réédite Le Boucher des Hurlus avec une postface de Stéphanie et de Hervé et avec des illustrations de Saint-Molotov. Et donc Jean Mecker, c'est un ami à moi qui est aussi libraire et micro-éditeur qui me fait découvrir Les Coups. Mais je commence pas par lire Les Coups tout de suite. Il me parle des Coups, il me parle de Jean Mecker, il me dit il faut que tu lises ça. Et je commence par lire Nous avons les mains rouges. Que je trouve super, parce que c'est une période qui m'intéresse pas mal, l'épuration et puis tout, enfin l'entre-deux-guerres aussi, la Seconde Guerre mondiale et l'épuration. Et ensuite, je regarde la biographie sur Wikipédia, comme un bon étudiant que j'étais à l'époque, je regarde la biographie Wikipédia de Jean Mecker, Jean Amila, et je tombe sur Le Boucher des Hurlus, qui a l'air d'être en tout cas, l'histoire me plaît beaucoup, et je finis par le trouver d'occasion chez un bouquiniste à Poitiers, et j'ai appris après que c'était quand même assez rare de trouver Jean Mecker ou Jean Amila chez un bouquiniste, et donc j'étais assez content. Et c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, Le Boucher des Hurlus. Et à cette époque-là, je regarde aussi un petit peu la disponibilité du livre et je vois qu'il est parfois manquant, c'est-à-dire qu'il est épuisé ou en cours de réimpression. Et en 2023, je contacte Stéphanie, avec qui j'avais déjà discuté pour un mémoire sur la réédition des œuvres littéraires en France. Et donc je la contacte pour lui demander un petit peu ce qu'il en est du Mecker et de ce Boucher des Hurlus, est-ce qu'il va être réédité, est-ce que c'est possible de le rééditer. Et je conclue avec Gallimard un contrat pour une version illustrée que j'ai un peu réfléchi pour que ce soit fait avec Saint-Molotov. Voilà. Et donc c'est comme ça que naît cette réédition, et je propose aussi dans le même temps à Stéphanie et Hervé d'écrire la postface pour ce texte.
Voilà, donc on a toute la la genèse de cette équipe réunie autour de la table. Alors peut-être que maintenant il faut qu'on en dise un peu plus sur Jean Meckert, qui deviendra Jean Amila en tant qu'auteur un peu plus tard, et peut-être nous raconter un peu d'où il vient, et ça a une importance particulière s'agissant de parler des Hurlus, puisque il y a beaucoup d'éléments de sa jeunesse qui transparaissent dans le boucher des Hurlus. Donc peut-être, je sais pas, Hervé ou Stéphanie qui veut se lancer. Ils se font des signes de tête. Alors, c'est toi qui commences.
Je commence et tu reprends, ouais. Ou tu corriges. Mais Jean Meckert, il naît en 1910, il faut dire, parce que évidemment, ce qui va présider, ce qu'on va retrouver dans le boucher des Hurlus, c'est très important. Mais il faut dire aussi qu'il va être, il est d'un milieu ouvrier, enfin prolétaire. Son père travaille, je crois, à la compagnie des omnibus et militant.
J'ai cherché son acte de naissance, c'est toujours intéressant. Et son père est déclaré comme employé de commerce.
Alors
peut-être que un peu plus tard, ça a changé, hein, mais bon.
Nouvel élément.
Voilà. Dans notre enquête.
Mais
je tiens l'acte de naissance à disposition.
Merci. Et puis, ce qu'il y a, c'est que son père participe à la boucherie qu'est la guerre de 14-18. Mais contrairement à ce qui va, on reviendra dessus, pourquoi, etc., ce qui va devenir un peu une sorte de légende familiale, malgré Jean Meckert lui-même, mais son père n'est pas un fusillé pour l'exemple de 1917, mais va refaire sa vie avec une autre femme, et bon, bref. La maman de Jean Meckert, si je ne me trompe pas, elle va choisir malgré tout la version du fusillé pour l'exemple, voilà. Et de toute façon, elle est considérée par tout son voisinage comme la femme du bolchevique, la femme du fusillé, enfin la femme infréquentable, abominable. Et elle va être internée. Et en fait, dès 8-9 ans, je pense, le petit Jean va être comme un orphelin, et il va être... où est-ce qu'il va dans
il
un...
Il a Courbevoie dans un orphelinat protestant.
Oui, c'est ça. Où il va avec une discipline quasi militaire, et ce qui va évidemment inspirer, on reparlera du contenu du boucher d'Hurlus tout à l'heure, mais c'est que de toute façon il est extrêmement marqué par tout cela, et ce n'est pas un hasard si le petit Michou, le très jeune héros du boucher des Hurlus, et lui-même va quitter un orphelinat, enfin va s'évader avec des copains pour venger son père fusillé pour l'exemple pendant 1917. Et puis bon, voilà, Meckert, il commence une vie de jeune ouvrier, de jeune prolo dès 13-14 ans. Il est il va être dans des ateliers de précision, automobiles et autres des Hautes-Belleville. Et puis après, je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais enfin, en gros, quand arrive la crise de 29 qui va mettre beaucoup beaucoup de monde au chômage, il est alors employé au Crédit Lyonnais. On verra comment un roman comme par exemple L'Homme au marteau raconte la vie de bureau avec toute sa...
Moi j'avais une question sur la période que tu décris, parce que quand même, on va en parler après, de ses premiers écrits, il a quand même une écriture, donc si j'ai bien compris, dans sa jeunesse, enfin la période que tu décris, il allait quand même dans une bibliothèque municipale lire
oui,
pas mal de bouquins,
ça a dû
certainement avoir une importance.
Ah bah t'as raison, parce que alors il est complètement, il est de cette origine-là, il est complètement autodidacte, voilà. Mais en même temps, ça va être un boulimique de lecture, il va fréquenter voilà, effectivement voilà. La bibliothèque, bon, découvrir Zola, mais découvrir aussi plein d'autres auteurs.
C'est important,
c'est très important.
Tu as fait un autre auteur qui est Ragon, mais
bien sûr.
Ce que tu décris, c'est presque dans oui. cette période-là, c'est la même histoire.
Ah bah
mais j'adore la lecture.
Oui, ça a complètement des points communs. Il y a une série, quelqu'un comme Georges Navel a à voir aussi avec ça, enfin, etc. Oui, bien sûr. Non, tout à fait. Et donc, de toute façon, il ne fait pas partie, il n'en fera jamais vraiment partie. partie du monde des lettres, mais il est un assoiffé, un passionné de lettres, ça c'est certain. Et puis, bon, ben voilà, après, pour aller vite, dans les années 30, il va, après avoir été licencié du Crédit Lyonnais, je crois qu'il va faire son temps dans l'armée, puis après, il va multiplier des petits boulots, voilà, avec, comme dans le dernier roman qu'on a réédité, La Lucarne, il y a un personnage qui lui ressemble quand même, par certains aspects en tout cas, et ça commence avec le fait que ce personnage vend des cravates et des maillots de corps devant les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Il n'est même pas ouvrier aux usines Renault. Il est celui à qui des ouvriers achètent, quand ils ont trois sous et un peu d'envie, une malheureuse cravate, quoi. Enfin, voilà. Et donc, voilà, ce déclassement complet, il va le connaître. Il part à la drôle de guerre. Il va finir interné en Suisse. Il va revenir à Paris. Et là, il est employé à la mairie du 20e, où il va trouver denrées rares, du papier. Et puis il va envoyer, c'est le début de la carrière littéraire, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il va envoyer un manuscrit, il l'envoie à Raymond Queneau, et c'est bonne pioche, parce que Raymond Queneau, c'est quand même, je pense, de l'écurie Gallimard, c'est l'auteur le plus intéressé, avec ce côté, cette oralité, ce langage, cette authenticité du style, ce côté très direct. Queneau, il tombe amoureux de ça, et il va le faire lire à des gens plus classique, comme Martin Dugard, qui va être aussi très méchérophile, mais André Gide, etc. Et Les Coups va paraître chez Gallimard et va avoir un succès critique très élogieux et un assez beau succès public, je pense. Et puis, pour Mecker,
c'est tout de même un sacré coup, si on peut le dire comme ça, pour quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a pas de, je sais rien, un tonton comme ça qui peut aider un peu. Et premier coup, ça s'appelle Les Coups, et c'est publié chez Gallimard, quand même, ce qui est tout de même quelque chose, quoi.
Oui, j'imagine. Enfin, j'ai pas une idée très précise, j'avoue, de l'état de l'édition et de la vitalité de l'édition française en 1940. Je suis pas sûre que ça ait été le meilleur moment pour monter des petites maisons d'édition, et que donc, en effet, Gallimard est certainement l'endroit où, quand on veut écrire, à qui on envoie son texte. La légende raconte qu'en fait, ce qui a d'abord alerté Queneau, c'est que c'était écrit sur du papier pur. Les papiers qui servaient quand on tapait à la machine. Ouais. Là, on a perdu toute la partie des moins de 30 ans dans les explications. voire des moins de 40. Voilà, il est séduit face à la muse de voir ce manuscrit arriver tapé sur des papiers tout fins comme ça. Et puis, il se trouve que par ailleurs, le contenu après est quand même au moins à la hauteur. Je dirais qu'il y a un intérêt, puisque c'est quand même pas si longtemps que ça après Céline. Il y a quand même, et puis c'est quand même aussi à l'époque, en tout cas à peu près, d'un intérêt pour le roman qu'on appelle populiste, même si aujourd'hui ce terme a pris d'autres connotations moins élogieuses. Il est quand même dans l'air du temps. Il y a quand même un intérêt, justement, pour un renouvellement, enfin, de voix qui renouvellent le style et qui sont capables, peut-être tout en étant très respectueux de la langue, malgré tout, d'y insuffler quelque chose d'un peu neuf par rapport à des voix plus académiques. Et en effet, que nous.
Va repérer ça. Vraiment un coup de cœur pour ce style, en tout cas. Je ne sais pas. Enfin, j'ai cru comprendre.
Oui, mais on comprend que ça.
Queneau l'a soutenu, parce qu'on cite Martin Dugard, mais je ne sais plus, il avait envoyé un autre bouquin à point. Dugard a dit ouais, c'est trop célinien. Enfin, donc,
ils vont être déçus.
Queneau. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas les détails.
Non, mais je crois que. Enfin, je pense que après c'est aussi la personnalité de Mecker qui est peut-être un peu particulière. Mais il y a aussi dans le journal de Queneau, je crois, à quelques endroits où il dit que Mecker c'est un peu perdu, où il dit qu'il va pas bien, je crois que c'était un gars pas très très simple et qui, en effet, était très prometteur avec cet enthousiasme que les éditeurs peuvent avoir quand ils découvrent un nouvel auteur. Et puis la difficulté qu'il y a à se renouveler tout le temps et puis à garder cet étonnement et cet enthousiasme intact. Et puis, il faut dire aussi que, malgré tout, les bouquins ne marchent pas très bien. Enfin,
oui, c'est ça.
Le premier
un certain succès, puis après, ça s'épuise un peu.
Ça s'épuise.
Ça s'épuise.
Voilà. Et donc, vont s'en suivre quelques années plus que difficiles. C'est-à-dire qu'il pensait vivre de sa plume, quand même, à partir de là. Ça ne va pas vraiment se concrétiser, voire loin de là, je crois.
Ça ne se concrétise pas. Donc, il multiplie. C'est à ce moment-là qu'il se met à écrire aussi pour des journaux sous des pseudos divers et variés, y compris féminins, pour des journaux de. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait retrouvé un rêve de femme.
Roman à l'eau de rose.
Avec des romans à l'eau de rose, formidables.
Ouais. Qui lui est proposé par des gens qui, par ailleurs, ont monté. Un magazine lié à Gallimard, qui est détective, le premier détective, qui est, dans lequel signe des plumes célèbres, mais je ne crois pas qu'on lui a pas proposé.
On l'a vu dans Rêve de femme ou par. Je crois qu'en plus il écrit pour le compte d'un type un peu plus connu et.
Ah oui, un chanteur.
En tout cas, voilà. Donc il multiplie ses sources de revenus possibles, de petits revenus, jusqu'à ce que à la fin des années 40, je pense vers 48 par là, 49. Vraisemblablement Queneau aussi, Alerte, qui est très très copain avec Marcel Duhamel. Duhamel, créateur de la série noire chez Gallimard, en lui disant il y a un gars là qui pourrait peut-être t'intéresser, dont le style pourrait coller avec ce que tu publies. En 50, il n'y a pas encore beaucoup de titres à la série noire. La collection a été lancée en 45, mais il y a eu très peu de titres en 45 et 46. En 40, même en 47, en 48, ça va un petit peu mieux. Il y a un peu plus de textes, une dizaine de textes publiés dans l'année. Donc en fait, Mecker, il arrive en 1950 avec Y a pas de bon Dieu. C'est le deuxième auteur français à être publié dans la collection sous un pseudo, alors qu'il est censé être un pseudo américain. Mais à l'époque c'est John Amila, mais John peut être un peu américain. Amila, je vois pas non plus tellement. Enfin, moi ça me fait pas immédiatement.
Il y a une anecdote sur le fait que le nom de plume qu'il aurait proposé serait un petit peu différent.
Oui, alors le nom de plume proposé c'est Amila Nard,
qui n'était pas américain du tout,
mais qui n'est pas plus américain. Par ailleurs, même si Duhamel lui aurait dit non, ça va pas, donc c'est John Amila qui est retenu.
Ce qui est marrant, c'est que c'est marqué traduit par en français.
Adapté par Jean Mecker.
Effectivement. De toute façon, Boris Vian, pareil, il avait sorti un bouquin, Vernon Sullivan. À l'époque, il fallait un peu une consonance américaine, j'imagine, pour dans la mode, quoi.
Il faut dire qu'ils ont bien la cote à ce moment-là. Ça a un peu changé depuis.
Oui, ça, je suis d'accord.
Le vent est en train de tourner, franchement. Mais en tout cas, à ce moment-là.
Oui.
Et donc, il va, c'est à partir de ses premières publications dans la série noire qu'il va avoir. Que ça va plutôt mieux se passer et qu'il va aussi connaître une certaine prospérité économique, je ne sais pas, mais en tout cas stabilité, puisqu'il va publier 20 titres dans la série noire.
21
titres.
Voilà. Mais il faut préciser aussi, enfin, je ne sais plus si on l'a dit, mais sinon Stéphanie, tu me dis, mais que la série noire, ça lui donne d'abord, ça va le nourrir, effectivement, et puis
les tirages
c'est aussi,
sont énormes,
les tirages sont très gros, ça n'a, c'est quelque chose que ça n'a rien à voir avec les questions de qualité, mais il est bien évident que l'auditeur auditrice aujourd'hui a plus de mal à se rendre compte, mais les tirages, je sais pas, en moyenne c'est combien au bout de quelques années, mais
c'est 40 000.
40 000, oui, 40 000, et il y a eu une période où il y avait deux séries noires par mois, je crois.
Mais plus que ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. On en fait 15 par an. Allez, il y a une époque où il y avait 60, entre 60 et 80 séries noires dans l'année.
Dans l'année. Donc ça fait, 4 à 5 par an. Oui,
ils ont publié en juillet, en décembre, tout le temps. Il y en avait tout le temps. Ça n'arrêtait jamais.
Donc évidemment, c'est aussi pour Mecker, devenu Amila, c'est aussi une façon de vivre en premier, et puis par ailleurs, de faire passe, de continuer aussi...
ça lui donne accès au cinéma.
Voilà.
Ça lui donne accès au cinéma, parce qu'une partie des titres de, ses romans qui sont adaptés, donc il rencontre aussi des gens de cinéma pour lesquels il bosse comme dialoguiste, sur ses romans, mais pas seulement sur ses romans, donc c'est tout ça.
Très bien. Je vous propose une petite pause musicale et puis on va continuer la suite de cette histoire après. Nous sommes toujours dans Trou Noir et nous consacrons cette émission à la réédition du Boucher des Hurlus de Jean Mecker paru chez Ronce Éditions, et nous venons d'écouter une émission que Saint Molotov, qui est l'illustrateur de ce livre, va nous désannoncer, comme on dit à la radio, et il va nous expliquer aussi le pourquoi de ce choix.
Donc c'est un artiste suisse qui s'appelle, je vais peut-être écorcher le nom, mais Tobias Pressig, qui est un violoniste. Et du coup, c'est un album que j'avais eu, qu'on m'a offert, et que je trouve qui vraiment m'a porté par son côté très répétitif, qui je trouve porte un peu à la mélancolie. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je l'ai écouté en boucle tout l'album, parce que ça réclame, et tout l'album en dessinant. Et j'aime bien en général m'immerger quand je fais un travail d'illustration avec des nappes sonores qui permettent de travailler sur le visuel, quoi. Voilà. Et je recommande cet album pour ceux qui veulent.
Donc rappelle-nous le nom.
C'est Tobias Pressig, et l'album c'est Diver, je crois. Et le titre c'est Floating. Et vraiment un très bon artiste à découvrir.
On est dans l'immersion.
Tout à fait.
Vous voyez qu'on parle plus dans le détail de cette réédition, justement. Donc, Saint Molotov vient de nous parler un petit peu de l'illustration. Je me disais que peut-être on pouvait... Moi, je trouve qu'il y a un talent que tous les auteurs n'ont pas, mais que dans certains romans, Mecker a tout particulièrement, c'est des premières pages ou des débuts de texte où ça rentre vraiment dedans. Et Quentin, je voulais te proposer, si tu es prêt, de lire la première page et demie du Boucher des Hurlus.
Tout à fait. La mère était rentrée tard et elle avait directement filé à la cuisine. Il n'y avait pas de salle de bain et le petit garçon pouvait entendre qu'elle se lavait à l'évier. Il faisait ses devoirs et n'avait pas voulu intervenir, mais il se doutait qu'on baignait encore dans le drame. Plusieurs fois déjà, des commères avaient jeté des œufs pourris ou des immondices sur la maman. Alors elle revenait toute sale et, simplement, elle lavait sa peau, son linge, sa coiffure. Au bout d'un moment, il avait entendu qu'elle ouvrait la cuisine. « Ne regarde pas !» C'était pudeur, il la savait déshabiller, traversant la petite salle à manger pour aller dans la chambre. Mais c'était un tel cri assourdi de bête blessée qu'il avait levé la tête de ses cahiers et il l'avait vue. Elle n'avait guère que son linge du dessous et tenait sa longue jupe et son corsage contre sa poitrine nue. Elle était décoiffée avec tout un côté du chignon qui tombait en longs cheveux noirs jusqu'à la taille. Et puis elle avait du sang sur le front et sur une oreille. Elle avait disparu avant qu'il ait le temps de prononcer un mot. Il s'était levé, s'approchant de la porte de chambre refermée. « Mens ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'occupe pas, je suis tombé. » Il savait que ce n'était pas vrai, pas si simple. Une fois déjà, au marché, il avait entendu les sales commères qui ricanaient au passage de la maman. Elle disait « Salope, bolchevique !» Et même à lui, une espèce de grosse poufiasse avait craché « Enfant de lâche !» Alors c'était comme ça dans le quartier. Il y avait des veuves de guerre, donc femmes de héros morts pour la patrie, et d'autres encore, avec des bons hommes revenus avec une médaille en plus et une patte en moins, et peut-être aussi un zizi en déroute, parce qu'elle roumionnait que le Jules était marqué par la guerre et que c'était elle les vraies victimes. Alors d'autant plus exorbitées contre les mutins de 17, les révolutionnaires qui n'avaient pas voulu monter au feu.
Merci Quentin. Donc il y a presque un concentré de Mekir. On est déjà dans le drame et puis il y a la langue, hein, quand même quelque chose de senti, de très imagé. Et puis visiblement une certaine détestation de tout ce qui est guerre, héroïsme et choses comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu une présentation du livre à Publico il y a 3 semaines, à la librairie Publico, et puis entre-temps on a entendu cette espèce d'excitation guerrière, tout ça, et je trouve que la réédition a pris une autre tournure. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi en le lisant plus ou moins dans cette période, je trouvais que ça prenait une valeur très forte par rapport à tout ce que Mekir met en avant, quoi, donc c'est pour ça qu'en présentant, j'ai dit que tu avais édité un livre d'actualité, un peu en souriant, mais il y a une actualité quand même, il me semble.
Et ouais, je trouve aussi, alors c'est absolument pas voulu, de toute façon on peut pas vraiment prévoir ce genre de choses, mais il y a un autre titre que j'ai, en fait l'avant-dernier titre que j'ai publié, celui d'Alexis Liena, qui l'a mis 10 ans à écrire, ça parle aussi d'une guerre qui se passe en Europe. Et c'est sorti au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine, et donc je sais pas si c'est un coup du hasard, du sort ou le hasard complet, mais donc il y a encore ce truc là qui se passe, et peut-être pour ça je vais faire une petite pause et arrêter de publier des trucs pour éviter que ce que je publie se
fasse. Tu veux cesser de déclencher des guerres,
voilà, ouais. C'est ça.
C'est élégant, enfin c'est délicat de ta part.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une actualité, et en fait il y a une actualité dans ce qui est raconté, mais c'est que surtout dans le propos est pas daté, c'est pas une écriture qui a mal vieilli. C'est pour ça aussi que je pense Mekir est réédité, et que ses textes, une partie en tout cas de ses textes en série noire, peuvent être réédités, et notamment de Boucher des Relus. Voilà.
Je pense que c'est aussi pour ça, effectivement, que les rééditions, celle-ci, chez Joël Losfeld et chez Joseph K. aussi, puisqu'il y a un autre éditeur qui réédite quelques textes, connaissent, me semble-t-il, un certain succès, parce que on l'avait oublié, puisqu'on redécouvre être très, très vivant et plutôt très moderne, quoi. Hein, donc, alors, ce que. Je fais le lien entre le roman, parce qu'on a dit qu'on en trouvait des échos dans la biographie de Amila dans le Boucher. Là, on voit bien que ce qui est décrit dans cette première page, c'est, pour ainsi dire, ce qu'il a vécu dans son enfance, avec sa mère qui subit un peu les assauts, les désagréments du voisinage, et qui sera effectivement interné. Donc là, c'est la toute première page où la mère du petit Michou revient de je sais pas quoi, d'avoir fait les courses, et elle s'est fait agresser, elle s'est battue avec une voisine, et tout ça va faire que sa mère va être arrêtée et que lui va être placé en pensionnat, ce qui est aussi arrivé à Mekir. Donc il y a une espèce de jeu de miroir assez, assez constant entre les deux.
Mais dans ses autres livres aussi, après. Je pense qu'on retrouve toujours un parallèle entre sa vie et ce qu'il écrit. Après, je pense que ce n'est pas le seul auteur. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont un peu une catharsis de ce qu'ils vivent, qui posent sur les livres. Ça permet d'extérioriser ce qu'elle nous rapporte intérieurement, quoi. Mais là, on le retrouve bien, et la façon d'écrire, effectivement, même est toujours agréable à lire à l'heure actuelle. Il n'y a pas un côté dur à lire parce que c'est passé ou comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est un sujet qui est... Là, on le voit d'actualité, mais ça a toujours été d'actualité. Il y a toujours une guerre un peu en Europe ou pas très loin. Là, on le voit parce que ça sonne à notre porte, comme on dit. Mais je pense qu'il y a quelques années, il y avait des guerres pas si loin que ça, malheureusement. Et que malheureusement, il y a toujours des gens qui veulent déserter ou des petits garçons qui sont malheureux de voir leur père mort. C'est pas... Voilà, c'est...
Mais en ce qui concerne Maecker, de toute façon, c'est une procure intimitariste. Ouais, ça ressort dans pas mal de ses bouquins. On va pas en faire la liste.
C'est un sujet récurrent. Ouais,
et c'est quelque chose qui tient. En plus, puisqu'on parle du Bûcher des Hurlus, il écrit ça en 82, il parle de son enfance. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué.
Bah, je pense qu'il y a de quoi.
Et peut-être que tu peux nous donner l'intrigue un peu de... Du boucher.
L'intrigue du boucher, elle est assez, assez simple. Donc, Michou, en fait, il se retrouve tout seul parce que son père, il est mort. En tout cas, dans le livre, il est mort. Dans la réalité, c'est autre chose pour Jean Maecker. Mais donc, Michou, il se retrouve tout seul parce que son père, il est mort à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est fusillé pour l'exemple, comme le disait Hervé. Et sa mère est placée dans un orphelinat. Dans un asile, oui, pardon. Oula, je m'embrouille. Elle est placée dans un asile. On l'a fait passer pour folle, en fait, tout simplement, suite à ces embrouilles de voisinage. Là, dans cet orphelinat, il rencontre quatre autres gamins qui sont plus âgés que lui, qui sont des rêveurs, disons. Lui, il est quand même plus sérieux du haut de ses 8 ans et il cherche à s'évader. Ils vont réussir très vite puisque Michou est assez déterminé. Il s'enfuit de cet orphelinat et ils vont partir à la recherche du général qui a fait exécuter le père de Michou. Voilà, le général Desgringues.
Et alors, une arme, non ?
Pas tout de suite.
Ils cherchent une arme aussi.
Effectivement, ils vont chercher... Parce que le plan qui est un plan d'enfant... Il y a un côté Club des Cinq aussi. Hein. Ces quatre gamins qui ils se sont de l'orphelinat. Puis...
Ça serait le Club des Cinq trash, alors.
C'est un peu trash. Quoi. Voilà. Et donc, leur idée, c'est qu'ils vont aller... La guerre vient de s'arrêter. Hein, et ils vont aller sur les champs de bataille parce qu'ils savent qu'il y a là-bas, il y a plein de cadavres, il y a des flingues, des armes en pagaille. Donc, ils vont en trouver une. Et puis après, ils vont rentrer à Paris pour aller... faire son affaire au général Desgringues, oui, c'est ça, qui est responsable de la mort de leur père à tous. Parce qu'en fait, ce sont tous des enfants de fusillés, a priori.
Alors, ils cherchent surtout en se rendant sur les champs de bataille, ils cherchent à retrouver le général qui n'est pas du tout sur le champ de bataille, comme beaucoup de généraux. Et ils vont visiter les champs de bataille. Et c'est à ce moment-là qu'ils volent une arme dans un bus rempli de soldats qui eux-mêmes vont visiter les champs de bataille et ils retourneront à Paris et je vous raconte pas la fin puisque sinon c'est un peu divulgué.
Peut-être qu'on va lire quelques petits extraits que j'avais notés puisque donc ils ne rencontrent pas vraiment le général Desgringues, mais enfin ils vont quand même le rencontrer. Il y a tout un tas de péripéties qui font que de la gare de l'Est ils vont arriver jusque à proximité des champs de bataille. Mais donc voilà comment est-ce que, entre guillemets, ils rencontrent le général Desgringues. Sur un autre côté de la pièce, mais tenu dans la pénombre, il y avait un portrait à fiche de militaire punaisé aux planches. C'était surtout un poitrail à médoche. Il semblait avoir gagné toutes les primes avec ses petits rubans. À voir le quai-bourg à feuilles de chêne, on devinait un général. La gueule maigre était celle d'un hépatique aussi prétentieux et équestre qu'un champignon petit gris, sûr qu'il avait poussé dans la crotte. Et donc, en fait, il se trouve face à une affiche, photo affiche qui représente le fameux général Desgringues qui sont venus chercher, qui vont trouver que comme ça. Mais pareil, dans ce style impeccable, on voit bien tout l'amour que Jean Maecker a pour la chose militaire. Ouais. Peut-être un autre extrait, puis après vous pouvez aussi commenter. Mais alors, on dit qu'effectivement, ils vont se retrouver à aller aller visiter un champ de bataille. Quelques mois après l'arrêt, donc c'est pas terrible.
C'est du côté de Verdun qu'ils vont se rendre.
Alors ils sont censés être du côté de Perthes les Hurlus ou voilà, donc c'est plus l'absolue géographie voilà. De tout ça. Village qui a disparu.
C'est dans la Marne.
C'est dans la Marne.
Ouais. Ah bah, qui a été anéanti pendant la guerre.
Ouais, c'est ça. Donc voilà une partie de la description. On entendait assez loin un jappement suivi d'un long hurlement. Et puis, sur tout le champ de bataille, jusqu'à l'Argonne lointaine, c'était bientôt comme 1000 échos hurlés, là où des dizaines de milliers de victimes avaient été abattues, maintenant bouffées par ces chiens perdus et ces loups errants qu'on disait survenus des forêts germaniques. La guerre était finie, mais là, durant des mois, des années, après chaque attaque imbécile et meurtrière ordonnée de loin par le boucher des hurlus, on avait pu entendre hurler non pas les loups, mais les hommes dans leur agonie entre les lignes, d'où personne ne pouvait les relever. Pareil.
L'a pas trop précisé, je crois, mais donc le boucher des hurlus, c'est le surnom du général des Gringues.
Oui, c'est vrai.
Justement. Et alors, il leur arrive plein de trucs avant d'arriver sur champ de bataille. Ah. Et je voulais préciser que la couverture du livre, c'est l'illustration de cette scène où ils arrivent sur le champ de bataille. Voilà, c'est pour ça. Et il leur arrive plein d'histoires. Ils rencontrent notamment un groupe de prostituées. Ils vont vivre des aventures assez rigolotes à la gare et avec elles dans le train. Notamment un banquet dans un buffet de gare qui est assez... assez drôle, voilà, qui donne un petit peu d'humour à ce roman.
Oui, un peu de légèreté sur un sujet lourd. Je trouve heureusement qu'il y a ces passages justement assez qu'un certain humour qui m'a plu, parce que sinon il y aurait une lourde, enfin ça serait quand même un sujet qui est lourd, quoi. Et du coup ça aurait été un peu plus dur à illustrer, alors que là on pouvait trouver une approche qui est un peu plus légère, et du coup c'était un peu plus facile à illustrer. Et après il faut rappeler aussi que c'était Paris pendant la grippe espagnole.
Ouais,
c'est pour ça qu'il y a des personnages qui ont des masques et tout. C'est pas parce que j'arrive pas à dessiner les bouches, c'est parce que ça avait rien à voir avec le Covid. Tu n'as pas déclenché le Covid, non. Je te rassure. Et c'était juste pour
peut-être
coller.
Un retour de la grippe espagnole.
Ouais. C'était pour coller au thème. Mais oui, l'humour est le bienvenu dans un sujet qui est très dur, quoi.
Oui, et en plus, je sais pas si ça a été dit, mais c'est le bouquin est écrit du point de vue de Michaud, en fait.
Ah, tout à fait.
Donc
à fait.
Ça apporte aussi un côté enfant, enfin.
Oui, guillemets. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui le plus mature, malgré le fait qu'il est le plus petit, alors que ses autres camarades rêvent pas d'aller au champ de bataille voir comment c'est ou avoir une arme pour se venger. S'ils sortent, ils veulent voir les kangourous, les Indiens, ce qui est très... enfin des enfants, quoi.
Oui, mais je pense que ça arrive à faire passer des choses peut-être qui sont vraiment extrêmement dures, en fait.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est lui qui a vraiment cette vision de vengeance. Les quatre autres, ils l'ont pas. Ils rêvent plutôt de choses extravagantes.
L'Australie,
les choses comme ça. Que lui, il a vraiment. Mais je pense aussi par le fait que sa mère lui a beaucoup parlé de tout ça. Il a cette envie de vengeance par rapport au général, à l'armée en général. Et du coup, c'est vraiment sa mère, je pense, qui a l'air de le porter à se dépasser pour se venger, parce qu'elle en parlait déjà de vengeance et de choses comme ça. Et du coup, le milieu dans lequel il a grandi, il l'a forgé à être ce qu'il est là, malgré son petit âge, quoi.
Oui, oui, en plus...
Stéphanie, je crois que...
Oui, quand il a été soumis à... Bon, enfin, sa mère a été soumise au voisinage, etc., qui décrit. Il y en a une qui s'appelle la Venin, si je me souviens.
Oui, il l'appelle comme ça, tout à fait.
Qui n'arrêtait pas à cracher sur sa mère. Et puis quand le petit est emmené, elle lui dit « Oh, mon pauvre petit !» Alors lui aussi, il a envie de se venger par rapport à la
Venin. D'ailleurs, la Venin a un mari, je crois, qui est policier, je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça, qui est gardien d'une porte de Paris ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi un rôle... position à
l'époque. Alors comment on s'approprie, parce que Maker il s'approprie sa vie pour en faire un roman, mais comment on s'approprie un roman pour l'illustrer?
En fait,
la musique.
la musique.
Je l'ai lu plusieurs fois. Après, j'ai, j'ai mon grand-père aussi, pas mon arrière-grand-père, qui est mort à la guerre de 14. Donc ma grand-mère m'en avait un peu parlé. J'ai vu des journaux qu'elle avait au grenier, qu'elle montrait pas beaucoup, qui devait s'appeler Le Miroir ou quelque chose comme ça, enfin des revues de la guerre. Et donc ça m'a parlé aussi parce que je me sentais indirectement concerné, quoi. Et même si c'est un petit gars, ma grand-mère, je me dis, elle pouvait avoir un peu la même pensée parce qu'elle a vécu des choses pas très loin. Donc ça m'a parlé. Et après, je me suis beaucoup documenté pour bien rentrer dans, plus dans la, les détails vestimentaires, les armes et tout, pas faire d'anachronisme. Mais c'est avant tout l'histoire qui m'a captivé par ce côté poignant du petit gars dans lequel on peut vite se retrouver, même si on n'a pas vécu les mêmes choses. Et effectivement, le disque m'a aidé, mais c'est avant tout l'histoire qui m'a bien plu. Et voilà quoi. Et après beaucoup de café, ça l'a fait. Et des bons six crayons, je ne dirais pas la marque, mais des bons crayons et du calque, ça fait là. Mais si on a une histoire, c'est avant tout l'histoire qui est poignante et qui permet de rentrer bien dedans. Et c'est pour ça que j'ai pas dit oui tout de suite, comme c'était loin de ce que je dessine d'habitude, qui est plutôt tourné autour de l'alchimie, de l'occultisme et ces choses-là. Il fallait vraiment que je sois touché par le texte. Et ça a été le cas vite. Hein. J'ai lu quelques pages et j'étais au bout en. Voilà. J'ai pas repris de livre entre ou fait de pause. Donc ça a été bon signe. Je me suis dit, ok, il va falloir travailler, mais ça va être bien. Et je suis content du résultat, mais je tiens à le souligner, Quentin fait un super travail. Ouais. Parce que la pochette, la façon de tout disposer, vraiment, la couverture est superbe. Le papier, moi qui suis sensible au papier, il est tout y fait. Du coup, je trouve que les détails sont vraiment poussés. Je suis très content du résultat, quoi. Vraiment très content. Ouais,
et je trouve que tu as fait aussi un très beau travail pour rendre aussi cette dimension de vue par les enfants. Évidemment, ce n'est pas un dessin réaliste, ce n'est pas un dessin d'enfant, mais il y a une sorte de naïveté qui rend les choses crues aussi et poétique.
C'est ma façon de dessiner, peut-être parce que je n'ai jamais appris non plus à dessiner, parce que je n'ai pas fait d'école d'art ou autre chose comme ça. Et le Moyen-Âge qui quand même me berce beaucoup dans mes lectures et tout, il y a un côté assez comme ça dans le Moyen-Âge qui est plutôt l'impact visuel et symbolique plutôt que le détail et du coup je l'ai retranscrit là sans effort. C'est venu comme ça.
Je vous propose une petite pause musicale avant de poursuivre.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant l'uniforme. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts,
cachant sous les flots de la Marseillaise, qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917, mutin de 1917.
Mutin de 1917, c'était Serge Géroyau. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et nous sommes, aujourd'hui nous consacrons cette émission avec Serge Monique à la réédition de Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert à Ronce Édition. Et nous avons quatre invités, Stéphanie Delestrée, Hervé Delouche, Saint-Molotov et Quentin de Ronce Édition. Après avoir donc effectivement étudié, consacré une séquence un peu entière au Boucher des Hurlus, j'avais envie qu'on évoque un peu Meckert comme écrivain et un des thèmes hélas d'actualité qui traverse quand même beaucoup son œuvre, c'est tout ce qui est autour de la guerre, avec un regard effectivement très très antimilitariste, une grande défiance pour les nationalismes, les embrigadements. Tous ceux qui courent avec la meute, l'antinucléaire aussi apparaît. Donc ça me paraissait intéressant, tout particulièrement ces jours-ci, d'évoquer un peu tout ça. Alors par exemple, il y a aussi un personnage de pacifiste qui apparaît dans son œuvre. Alors je vais peut-être lire le tout début. Qu'un personnage un peu étrange et puis aussi assez caractéristique des personnages masculins chez Meckert, c'est rarement des héros, voire jamais. Les femmes sont un peu plus positives, on en parlera peut-être après. Mais voilà, ça c'est le début de La Lucarne. C'était, je ne sais plus la date de publication, 45. C'était réédité chez Losfeld avec, comme toujours, une excellente préface. Voilà comment ça commence. C'est en octobre que l'idée était venue à Édouard Gallois, un jour d'octobre, en grisaille intime. Il pleuvait tout finement ce jour-là, du haut de la tour qui pointait dans les nuages. Le champ de Mars passait ses allées calmes à la clarté diffuse des jours, sans soleil, et la terrasse du nouveau palais de Chaillot prenait des allures de grande tribune pour interpeller le monde entier. Édouard Gallois était sur le pont. Il était accoudé au-dessus des remous de la Seine, tout intérieurement envahi d'épopées impériales à odeur de quartier de cavalerie. Il avait un ciré noir taché de petites boues, des cheveux longs de chômeur et une face verdâtre de malheureux. Il était tout angoissé d'humbles peines quotidiennes, tout serré de malchance. Et il avait aussi comme un désir de se noyer dans toutes les énormes harmonies qui se répercutaient d'une rive à l'autre. Il aurait voulu qu'on lui joue de la musique, lui le petit chômeur. Ça n'avait rien de ricanant, sa mélancolie. C'était aussi simple que la pluie. Il attendait la nuit pour rentrer chez lui. Il n'était pas si pressé de retrouver son logement sans couleur, avec tout l'écœurement, toute la petite souffrance du bonhomme inutile. La pluie tombait si doucement qu'il n'avait pas encore tout à fait l'impression d'avoir les cheveux trempés. Ça versait plutôt comme un brouillard sur la Seine et dans ses pensées. Ça préparait un terrain mou, lourd comme un champ labouré. Il avait comme une grande angoisse qui venait combler ses vides. Il était bien, Édouard Gallois, avec ce calme épais, cette richesse repliée qui précède la première fulguration des grands orages intérieurs. Il ne rêvait pas sous la pluie fine et qu'il avait le pont d'Iéna, il pensait. Oui, on peut comprendre que peut-être que ces romans n'ont pas suscité un enthousiasme fabuleux pour le lecteur, publié en 1945. Et peut-être, je ne sais pas, Hervé, si tu veux décrire qui est un peu ce personnage et qui va être sa grande idée ou son grand dessin.
Bah, sa grande idée, c'est de forme, soudain, ça lui apparaît un peu, ça lui tombe un peu sur la tête, comme ça, c'est de former une vaste armée de la paix, ce qui est quand même, malgré tout, ce qui part d'une très bonne intention, hein, mais ce qui est un peu nébuleux, peut-être, d'autant que, par ailleurs, à l'époque, existent des mouvements pacifistes, qu'ils soient liés, au mouvement libertaire, ou qu'il soit lié au mouvement communiste, ou d'autres, hein, chrétiens, etc. Mais c'est assez étrange parce que, en même temps, ce personnage d'Edouard Galois, il est à la fois, entre guillemets, mécartien, si on peut dire, parce que Mécaire a été, évidemment, détesté les guerres, les galonnés, le militarisme, mais en même temps, on s'est posé la question, on la pose d'ailleurs dans la préface avec Stéphanie, la question de savoir s'il n'y aurait pas presque une espèce de... Mécaire le tourne un petit peu en dérision. Mécaire, de toute façon, n'est pas un auteur de l'empathie complète avec ses personnages. Il n'y a pas, comme tu le disais très bien tout à l'heure, il n'y a pas de héros. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait des héroïnes non plus. Mais non. Cela dit, on parlera des femmes tout à l'heure et de comment elles sont, entre guillemets, traitées dans la littérature de Mécaire, Amila. Mais en tout cas, voilà, il va comme ça s'enticher de ça. Il va quand même provoquer l'incompréhension de tout le monde. Bon, sa femme en premier lieu, parce que malgré tout, il faut bien le dire, c'est trivial, mais c'est quand même elle qui fait bouillir la marmite, si je puis dire, pendant que lui oublie parfois d'aller vendre ses cravates, ce qui n'est pas glorieux, mais enfin à la porte des usines Renault, et rêve de cette armée de la paix. Mais enfin, va à des réunions, n'est jamais content de rien, et quand même, à un moment, finit par être un peu lassant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et puis il arrive, en fait, il a aussi beaucoup de mal à... Ce qui est aussi un grand thème mécartien, c'est qu'il a beaucoup de mal à communiquer sa grande idée. C'est-à-dire que personne n'arrive bien, enfin, il n'arrive d'ailleurs pas lui-même à exprimer la particularité de cette idée par rapport à celle que peuvent avoir les pacifistes, enfin, ou les communistes, enfin, tous les gens qui sont aussi de grands militants pour la paix, ont du mal à comprendre où il veut en venir et ce qu'il y a de très singulier sa grande idée. Donc, ça le rend plutôt colérique et désagréable, que personne ne le comprenne. Et c'est des personnages, donc cette incommunicabilité, cette difficulté à se faire comprendre de ses semblables, c'est quand même le grand thème de Mécaire, qui est le grand thème de son premier roman, Les Coups. Et en particulier la communication dans le couple, puisque Les Coups, c'est quand même un homme qui n'arrive pas à communiquer avec sa femme autrement qu'en lui collant des baffes à un moment, qui est aussi un sujet relativement d'actualité. Et donc Mécaire est beaucoup dans cette thématique-là et la difficulté à partager. Et aussi dans ces personnages qui sont pleins de grandes idées, mais finalement qui ne font rien. Et c'est des personnages qu'on retrouve très fréquemment, qui ne passent pas à l'action, ou qui sont victimes du peu qu'ils font. Et tu disais, Véléitaire, c'est tout à fait ça. C'est aussi le personnage, là, j'y pense, parce que ça va être la prochaine parution, qui sera La Vierge et le Taureau, qui est un des derniers romans écrits sous le nom et publié sous le nom de Mécaire dans les années en 74, je crois. Donc, un roman particulier sur les essais nucléaires dans le Pacifique. Et où il est pareil, un personnage qui est complètement à côté de la plaque, qui se prend pour un espion mais qu'on n'est pas vraiment un, puis qui, à force de se prendre pour un espion, finit par quand même éveiller le doute et par se faire rattraper par ses mensonges. Donc il a quand même souvent des personnages qui ne sont pas du tout qui ne sont pas très glorieux.
Même Michou, en fait, sans spolier tout le livre, il ne réussit pas vraiment, même en voulant, avec toute la volonté qu'il y met. À la fin, quelque part, on laissera aux éditeurs de découvrir, mais à la fin, ils lose aussi.
Hein. Bah oui, non, mais c'est vraiment... C'est du roman noir, on n'est pas non plus dans... Voilà, on sait que ça ne va pas très bien se finir.
Non. Ça se finit, je dirais quand même que... Il me semble que Michou, le héros, justement, de Boucher des Hurlus, est peut-être le seul héros...
Bah, il échoue quand même sur sa mission principale.
Ça, on peut être un héros et échouer. C'est pas très grave. Surtout grâce à un peu de magie, ils ont réussi. Mais bon, là, faut le lire. Mais il y a quelque chose de... Je sais pas si c'est positif, mais il est...
Disons qu'on lui pardonne parce que c'est un enfant, éventuellement, de pas... De ses maladresses et ses... Et ces incartades, ce qu'on pardonne peut-être moins à un adulte, et notamment à celui de la lucarne, à Gallois, qui, à part être velléitaire et puis fatiguer tout le monde parce qu'il se met en colère, parce qu'on ne comprend pas, y compris finit par casser toute l'amitié que pourrait avoir le lecteur pour lui.
Oui, c'est ça.
Il y a d'autres aspects.
Je me souviens qu'en le lisant, il y a des moments, j'ai presque envie de
lui en coller une.
Oui.
Mais il faut pas, on tape pas quand on...
Ce qui est assez rare, hein, quand même, de...
En plus, c'est pas une très bonne période pour Meckert, hein, les 45, oui, sur de la guerre. Il n'y a pas tellement de succès, en plus, en ce moment-là. Quoi.
Bah, en 45, si, parce que c'est 4 ans, 5 ans après qu'il a publié Les Coups, donc... L'essai n'est pas transformé complètement à ce moment-là. Il a publié entre-temps L'Homme au marteau, La Lucarne, c'est le troisième. Là,
c'est l'espèce le triptyque de l'échec.
Oui, un triptyque. De toute façon, Meckert, c'est quand même un... C'est pas un bout en train, quand même. Enfin, globalement, il n'y a pas un seul de ses romans dont on sort complètement exalté en se disant qu'on va faire la révolution. C'est-à-dire que lui, il a fait dans ses romans, mais assez vite, ça va dans le mur. Donc,
Que dans L'Homme au marteau, dont tu parlais au tout début, par exemple, son personnage, à un moment, qui en a finalement assez de cette routine de la vie de bureau qui est décrite avec à travers les décennies, moi j'y ai retrouvé, j'ai connu la vie de bureau, j'ai connu cette vie de bureau-là avec quelques détails changeants, mais bon, et il va en avoir de ça, les éternels collègues, ragots, machin, la peur du petit chef, le Tour de France qui vient à point nommé chaque année pour distraire la population, et donc les gens du bureau, et puis soudain, il va claquer la porte un jour, il va avoir ses... Et puis, c'est la désillusion de cette révolution manquée que fut le Front Populaire. Et puis, il va avoir une amourette, mais tout ça va tourner court et il va rentrer dans le rang. Parce que c'est en ça d'ailleurs que ce côté triptyque de l'échec a aussi un écho avec, pour moi, Meckert à Mila, il y a évidemment des choses qui changent parce qu'il y a des contraintes de collection, tout ce qu'on veut. Mais enfin, en même temps, il y a ce côté d'une littérature de la désillusion. Ça, c'est alors là très clair, il me semble.
Oui, non, il n'y a pas de bon Dieu aussi, là, qui est donc un roman des années 50, qui est donc son premier roman sous le pseudonyme de Amila. C'est aussi une petite communauté qui se révolte contre un gros propriétaire qui veut racheter le village dans lequel tous ces gens sont installés parce qu'il voudrait extraire... Dans le roman, c'est dit tardivement, mais peut-être de l'uranium. Donc on leur promet d'aller leur filer un champ un peu plus loin pour aller se réinstaller. C'est censé se passer aux États-Unis. Et en effet, toute la communauté se ligue et se rebelle contre ces gens qui leur imposent un déménagement. Ils se rebellent, mais ça se termine pas très très bien non plus. Après, tout ce qui est intéressant, évidemment, ce qui est intéressant dans les romans, et je pense que c'est pareil, tu peux dire aussi ce qui t'a ému dans Les Hurlus, mais c'est quand même toute la mécanique. On sait que ça va mal se passer, mais de toute façon, globalement, il y a pas mal de choses qui se passent pas très très bien dans la vie, donc finalement, c'est la mécanique.
C'est encore d'actualité, du coup.
Oui, mais c'est
aussi reste d'actualité.
Non, mais c'est la mécanique, c'est comment... C'est qu'est-ce qui est déclencheur dans une vie d'une révolte, puis qu'est-ce qui est déclencheur du fait que, j'en sais rien, en tout cas pour les personnages de Meckert, ils rentrent dans le rang, ou au contraire, ils vont se faire tuer, ou il y a tout un éventail de possibles dans les différents romans de cet auteur, et c'est surtout, évidemment, comme on parle de littérature, c'est surtout la manière de l'écrire, et les envolées de stylistique de l'auteur, parce que sinon, il y a certainement plein de bouquins qui parlent de la même chose, et pas du tout avec le même talent, ou en tout cas qui... Je sais pas, toi, t'es pas un spécialiste de la période, qu'est-ce qui t'a...
Moi déjà le style, hein, c'est clair, enfin les thèmes abordés, mais et puis le déterminisme aussi là-dedans, enfin les personnages, ils s'échappent pas du tout à leur destin, si tant est qu'il y a un destin, mais on sait très bien qu'effectivement que ça va pas se passer bien pour eux, ou si ça se passe pas mal, ils vont pas faire des miracles. Et il y a aussi vraiment le style et le côté très oral du style de Maker et des espèces de saillies aussi qui souvent moi me retourne un peu le ventre, et c'est ça qui me plaît aussi dans Maker, et ce qui me plaît dans les auteurs que j'ai publiés, c'est qu'il y a pas tout le livre, mais il y a des passages qui secouent, quoi, notamment celui qui est en quatrième de couve, qui est pas qui secoue parce qu'ils sont trash, mais parce que ça raconte, ça résume à mon avis le livre, ou ça résume un peu la thématique que cherchait à aborder Maker. Et là, la quatrième de couverture, je sais plus à quelle page c'est. Au moment en fait où il se retrouve devant l'infirmière de l'orphelinat, et il raconte son histoire à l'infirmière de l'orphelinat. Et je peux le lire.
Oui, bien sûr.
Là, c'est Michou qui commence à parler. Le chef qui a commandé ça, on le connaît. Et moi, j'attendais de plus grand, mais je l'aurai. L'infirmière, veux-tu bien te taire, mon gamin? Je sais son nom et même qu'il habite à Neuilly, pas loin d'ici. Tais-toi. Maman voulait lui faire son affaire, mais ça suffit, mon petit bonhomme. Tu ne rends vraiment pas service à ta maman. Essaie de comprendre, ne parle jamais de ça à personne. Mais le petit gars continuait, crispé, concentré. Des fois, je fais des dessins avec un grand mec plein d'étoiles et moi, je le pointe avec un pétard. Veux-tu te taire? Que c'est tellement lourd que je le tiens à deux mains. Et par exemple, ce passage-là, je trouve qu'il est vraiment hyper fort. Son talent, je trouve, à mes cartes, d'écrire avec les yeux d'un enfant, ça résume, enfin, ça parle aussi de ce déterminisme-là que, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on comprend plein de choses en lisant quelques passages de chacun de ses romans. Et là, en l'occurrence, qu'on comprend que de toute façon, il lui arrivera rien de bien à ce gamin et qu'il va rester un petit peu dans la situation qu'est la sienne. Je sais pas si c'est, pour moi c'est très clair, mais ouais, c'est pas, il y a ce truc là très très fort que dans Jean Maker qui moi me plaît et qui a fait que je l'ai réédité, quoi.
Moi je me disais justement que la revanche ou la revanche est dans le style, en fait. Oui. de pouvoir pointer les ridicules aussi précisément avec autant d'acuité, en fait c'est ça la revanche. C'est que, ouais, je sais que ça ne va pas bien s'en sortir, on ne va pas faire beaucoup mieux, mais moi je t'ai vu, quoi. Il y a quelque chose de très précis là-dedans, et qui, pour le coup, surtout dans les hurlus, pour le lecteur, c'est assez jouissif, quoi. Parce que, ok, c'est, tout ça est très sombre, mais il y a une ironie quand même qui est puissante. Bah, quoi.
Il met des mots sur les choses, ou en tout cas, quand il n'y a pas de mots, par exemple, des fois, quand il y a des trois petits points, il n'y a pas de mots, c'est des silences. Il arrive à mettre. Enfin, je ne sais pas, moi, il y a des choses que je ne formulais pas forcément, ou dont je n'avais pas forcément idée, et que certains textes de Maker ou d'autres auteurs m'ont aidé à mieux comprendre et à me dire, ah oui, c'est ça que je voulais penser. Voilà, après, tout simplement.
Moi, j'ai lu que celui-là, c'est un Molotov qui parle. J'ai lu que celui-là, et moi, ce que je trouve qui est fort dans sa façon d'écrire, c'est le rythme qu'il y a, quoi, qui est assez c'est rythmé, et tout en étant très narratif. Et du coup, le même sujet et pas tout à fait la même façon d'écriture, je pense que ça viendrait vite un peu rébarbatif. Alors que là, c'est captivant par le rythme d'écriture, et en fait, on n'a pas envie de lâcher, parce que même si dans un coin, on se doute un peu ce qui peut arriver, le rythme fait que, et la façon d'écrire, on est captivé par ce qui arrive à cet enfant, quoi. Et c'est vraiment dans le rythme d'écriture, et je trouve que c'est là qui fait fort, quoi. Parce que le même sujet écrit avec un autre rythme, on perdrait plus facilement, on pourrait poser le livre et se dire, ouais, c'est trop lourd ce qui arrive, et le décrocher. Alors que là, on est vraiment captivé par ce rythme qui donne envie de poursuivre.
Mais il est très fort dans ses dialogues.
Ouais, voilà, c'est très captivant.
Il est super fort dans ses dialogues qui, en effet, résument plein de choses, font passer bien plus que ce qui est juste écrit ou dit par les personnages. Ça suggère plein de choses. Non, il est. Et c'est dur. En fait, c'est vraiment dur des dialogues réussis dans un roman. Souvent, enfin. Ça peut facilement être plat parce que et c'est là où c'est les auteurs de l'oralité, comme on les appelle parfois, c'est-à-dire qui écrivent vraiment très proche de la manière qu'on est censé d'avoir de s'exprimer, sont bien plus forts parce qu'ils se contentent pas de faire des dialogues. Je le vois, moi, comme, pardon, enfin, je fais cette incise, mais je reçois beaucoup de manuscrits et je vois bien quand les gens, enfin, quand les auteurs se contentent d'écrire un dialogue qui serait un dialogue vraiment réaliste, quoi.
Fonctionnel,
c'est horrible. On s'ennuie énormément, ça marche pas du tout. Donc, en fait, à la fois, c'est là vraiment la difficulté de faire à la fois, dans le vocabulaire et dans le rythme, t'as raison, quelque chose de qui paraît très très simple dans l'expression et en même temps qui véhicule autant d'informations et qui soit aussi percutant.
Les bonnes informations parce qu'on peut vite visualiser la scène là quand elle explique de sa mère comment, avec quelques éléments, on imagine bien la cuisine, la mère comment elle est habillée. Et du coup, l'émotion est d'autant plus facile à générer dans sa tête, puisqu'il y a ces deux, trois petits mots qui vont donner un cas tout de suite assez rapide.
Il y a de la vie dans ses dialogues, dans ses livres, et c'est aussi sa vie qui est dedans. Moi, je pense que c'est aussi ça qui a dû
servir. Et c'est sa rage.
D'avoir la capacité.
C'est désespéré, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir. Enfin, voilà, on sait que ça va aller dans le mur, ces histoires, mais n'empêche que ces personnages, et même Édouard Gallois, là, de la Lucarne, parce qu'on a moins envie de mettre de secouer Michou parce qu'il est très dynamique.
Il a la rage.
Mais le Édouard Gallois qui est au bout de sa vie là et qu'on a un peu envie de secouer, c'est vrai que finalement on le fait pas parce que ce qui est touchant c'est cette révolte, cet état de révolte dans lequel il se trouve. Et dont il peut rien faire. Et c'est horrible d'être révolté et de ne rien pouvoir faire. Voilà. Donc, et Mecker, je l'ai pas du tout connu, mais je l'imagine comme ça. J'imagine à la fois totalement bloqué dans l'action et en même temps ruminant sa rage contre les militaires, contre la guerre, contre les femmes, contre, contre tout un tas de sujets.
Mais ce que disait, je pense aussi, enfin très brièvement, comme ce que tu disais Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, la Lucarne se termine par Édouard Gallois redevenu bonhomme, c'est-à-dire comme schéma classique, c'est-à-dire rentrant dans un rang quelconque, restant dans son... Mais par contre, Mecker... Par l'écriture, par la littérature, il est évident qu'il transcende cela. Et c'est cette révolte dont parle Stéphanie, etc. Oui, c'est ça. Par contre, il va, lui dont le thème est un des thèmes est l'incommunicabilité, il va mettre des mots du rythme, de la vie, enfin ce que Serge disait aussi, etc. C'est indéniable que son œuvre est marquée par ça, oui.
Mais je pense que là pour lui, ça devait être, comme tu le dis, c'est extrêmement important, la littérature. C'est là, finalement, qu'il y a certaines joies, au moins dans l'écriture. Peut-être pas, mais par contre, pas dans sa vie. Enfin, je sais pas exactement, ça s'agit sans le mal, mais un truc dont je me souviens, son premier mariage, au bout d'un an, ils sont séparés. Enfin, j'ai pas su la suite exacte, mais même sur le plan affectif, en plus, il a été agressé, je crois, en 75, qui lui a laissé des traces pendant assez longtemps. Enfin, lui, personnellement, il a vécu des trucs assez dur. Et je pense que, enfin, je sais pas, je dirais pas de la littérature, enfin, je dis n'importe quoi, mais il serait peut-être mort avant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'a aidé à vivre et il arrive à nous le transmettre. Enfin, moi, je le vis comme ça en lisant ces bouquins.
Et j'avais une question par rapport à son écriture. Est-ce qu'on a ses manuscrits? Est-ce que justement on voit ce qui se passe, ce qui se rature, si c'est dingé, si c'est...
Non, il y avait des manuscrits dans lesquels on a quand même pas mal farfouillé avec Hervé. On a pris des versions.
Chez Gallimard, ils ont le...
Je sais pas, non, je suis pas sûre. En fait, je me suis jamais... Enfin, ça, non, j'avoue que j'ai jamais eu de la curiosité de demander, mais je vois pas pourquoi il l'aurait. On a vu des manuscrits ici, il y a des versions intermédiaires, mais je pense pas que ce soit les premières versions du texte. Alors parfois avec des petites corrections. Il y a peut-être plus que ça, je me souviens pas, c'était il y a donc 20 ans.
21.
Bah 20, même plus que ça, parce qu'en fait 20, je crois que c'est le début des rééditions, donc on avait commencé à bosser avant ça. Et on avait fait un voyage chez Laurent Mecker, qui habitait, donc le fils de Jean Mecker, qui habitait dans la maison de son père, qui nous avait ouvert la maison de son père pour qu'on regarde, qu'on fouille. Et donc il y avait beaucoup de manuscrits, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a regardées assez vite en se disant, bah non, mais ça, on connaît l'histoire. Enfin, on cherchait un peu les enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'on cherchait.
Des inédits ou...
Bah, on en non, a trouvé, pas, mais je pas crois pas qu'on les cherchait.
Notre but au départ, c'était de rééditer Jean Mecker, qui était paru dans La Blanche, qui, à part les coups, n'était pas disponible. Ouais. Et là, il y a eu, bah, évidemment, enfin, si tu m'interromps si je me trompe, mais enfin, il y a eu la grosse cerise sur le gâteau pour qui s'intéresse à un auteur, effectivement, c'est qu'un jour, bah, on trouve, de même que... on trouve l'après-midi, on avait déjeuné frugalement avec Laurent, et l'après-midi, on trouve soudain dans cette vieille armoire une liasse de 90 pages sur les doubles à l'encre violette. Là aussi, on parle d'un temps que les moins de... etc. Et puis, comme à tous les deux, sans avoir tout lu l'un et l'autre, on avait peut-être tout lu à deux quand même, et ben on s'est rendu compte que ça, on ne... bon, voilà.
On l'avait jamais lu,
c'est ça. La marche au canon. Et puis, dans lequel, ben, tu parlais de phrases qui t'ont frappé, ou de... voilà, moi, ne serait-ce que lire ça, qui a été repris en quatrième de couve, on votait pour la paix, on payait pour la guerre, partout les innocents, enfournés par wagons, roulaient dans les nuits calmes, et ceux qui pleuraient le faisaient en silence. Eh bien, j'avoue que des passages comme ça provoquaient quasiment les larmes aux yeux, et étaient en tout cas de l'émotion. Et c'était, il y avait aussi ce sens du rythme, etc. Ouais, incroyable. Et voilà. Et on s'est dit, et puis notre éditrice, tout de suite après, ça a un peu bouleversé les parutions qui étaient déjà parues, qui étaient déjà prévues, et un certain succès a commencé.
Voilà. Que donc ça, c'était donc un inédit qui a été le premier de la série rééditée chez Joël Losfeld,
oui,
qui est numéro 1. Et donc il s'agit de notes plus ou moins rédigées, enfin je sais pas à quel point, mais en tout cas Mecker est mobilisé au moment de la Seconde Guerre mondiale, il va subir la déroute des armées françaises, et donc en fait ce texte-là, ce sont ces notes de soldats ballottés qui s'échappent en montant dans un train un peu de marchandises, ouais, choses comme ça, et c'est assez terrifiant sur effectivement ce que peut produire la guerre d'une manière générale. Hein. J'avais prévu d'en lire, bon, je sais qu'après on court peut-être un peu après le temps, mais c'est vraiment, pour le coup, là c'était un inédit. Je ne sais plus quelle année ça a été publié.
On l'a publié en 2005,
2005,
ça,
2005.
Ça, je crois, c'est le début.
Et donc ça fait partie de ces textes de Mecker qui touchent à la guerre, et on sent bien que ça le... puisque les
10 mars 2005.
Les hurlus, voilà. c'est l'enfance, quelque chose qu'il n'a pas vécu directement, mais qui l'a impacté. La marche au canon, bah, évidemment, c'est son expérience de soldat pendant la guerre. Nous avons les mains rouges, il a été dans la résistance, et il sent qu'il en ait conservé quelque amertume. Et ce roman-là est assez sans illusion aussi, puisque ça renvoie pas exactement tout le monde dos à dos, mais les résistants et les résistants de la 25e heure.
Oui, plutôt les résistants de la 25e heure, d'ailleurs, que les résistants.
Mais c'est-à-dire qu'il y a des résistants qui veulent continuer. Pourquoi l'affaire, pour qui l'affaire n'est pas réglée, qui veulent continuer la lutte armée, alors qu'on a décidé que c'était la paix. Et puis effectivement, il y a tous les textes liés à l'arme atomique. Ou aussi, j'imagine, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, mais sur la plage d'Omaha.
Au balcon d'Hiroshima.
Ah, au balcon d'Hiroshima.
Ah, la lune de Ma,
c'est ça.
Lune de Ma, c'est au...
En 85, je crois qu'il a...
Voilà, ça... Oui, le...
Quelque chose
84,
comme ça.
Au moment, mémoire, hein. Au moment des commémorations, évidemment, du 40e
anniversaire,
du débarquement, etc. Et où, effectivement, c'est un livre qui est un petit peu...
Ah, est-ce que je peux me permettre d'ailleurs, une fois, j'avais comme ça marqué, par rapport à ce bouquin, de lui... Hiroshima annonce l'époque où le monde entier est à la merci d'une casse qui peut disposer de la vie de milliards d'hommes. C'est contre ça que j'essaie de me battre, même en écrivant des romans noirs.
ça m'avait bien plus.
Oui, parce qu'en fait, dans la série noire, il a commencé avec « Il n'y a pas de bon Dieu », dont tu as parlé, oui, etc., où il y a quand même aussi déjà la question de l'uranium dans cette espèce de vallée qui est un combat qui va être perdu, mais qui est une ZAD avant l'heure, enfin, contre un grand projet inutile et imposé, avant l'heure aussi. Et puis, le dernier roman, au balcon d'Hiroshima, reviendra. C'est, au départ, c'est une histoire de deux pégriots, je crois, qui en cherchent un troisième parce qu'il les a arnaqués en 39. Et puis, il est allé se planquer au Japon, le bougre, et ils vont aller le essayer de le retrouver là-bas. Mais ils arrivent juste après l'explosion.
Voilà. Bon, en attendant l'explosion, je vous propose une petite pause musicale.
Oui.
Espérons que on sera là-haut.
Les croisés sont de retour aux quatre coins de la planète, se proclamant tour à tour protecteur ou bien prophète. Ils comptent sur toi pour t'engager, que tu les suives vaille que vaille, au fond de n'importe quelle tranchée, sur n'importe quel champ de bataille. Changer leur fusil d'épaule, ça ne leur fait pas peur. Hier nous lui vendions nos rafales, aujourd'hui à mort le dictateur. C'est la guerre, partout c'est la guerre.
C'est la guerre,
toujours, toujours, toujours. Camarades, pour que leur histoire s'accomplisse, aucune esquive, aucune parade, ils veulent que tu choisisses. Ils t'enverront en première ligne, toi ton courage et ta jeunesse. Sur ton uniforme, leurs insignes feront de toi un chien en laisse. Donne ton sang mon garçon, nous te donnerons le paradis. Donne ton sang pour la nation, donne ton sang pour la patrie. C'est la guerre, partout c'est la guerre.
C'est la guerre,
toujours, 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 toujours la guerre. Finissent par te faire tomber, ils viendront fleurir ta tombe de leurs hypocrites pensées. Tu auras le droit aux honneurs, à leur entière reconnaissance, leur médaille, leur légion d'honneur, posthume récompense. Ils élèveront une statue et à ses pieds seront gravés le nom de tous ces inconnus pour la postérité. Ouais, c'est la guerre, partout c'est la guerre.
C'est la guerre,
toujours, 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 toujours la guerre.
HK et les saltimbanques, la guerre. Dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Oui, et donc avec Serge Monique, nous consacrons une émission à la réédition d'un roman de Jean Meckert, publié pour la première fois en 1982 dans la série noire qui s'appelle Le Boucher des Hurlus. Donc c'est chez Ronce Édition. Et nous avons à la table tous ceux qui ont contribué à cette édition, puisqu'il y a Quentin qui est Ronce Édition. Saint Molotov qui a fait l'illustration du livre. Et puis Hervé Delouche et Stéphanie Delestré qui, tous les deux, ont contribué à la postface. Pourquoi une postface et pas une préface? Je dis un truc comme ça me vient, parce que chez Losfeld, c'est toujours une préface.
Alors, c'est moi, parce que je déteste les préfaces.
C'est dit.
Tu préfères lire le livre avant, c'est ça?
Ouais, je préfère lire le livre avant, et après, je pourrais très bien lire la préface à la fin, mais ça m'agace que
souvent ce soit le début.
Et donc, parce que ça m'a déjà gâché plusieurs fois les histoires, et à un moment, j'étais un peu toqué, et je voulais lire le livre dans... tous les livres dans l'ordre, et donc je commençais toujours par la préface. Et des fois, ça me gâchait vraiment l'histoire, donc pour ça, je déteste les préfaces.
Sinon, tu aurais pu arracher la préface, puis tu la mettais à la fin.
Je la mettais à la fin.
Je peux comprendre, c'est comme sur un tableau, je trouve, de lire le petit...
le cartel.
Le cartel, avant de... Non, je veux déjà avoir de l'émotion par le tableau, après, je vais chercher l'info. Du coup, là, j'ai apprécié que ce soit à la fin, ça nuit pas à la lecture. Il y a des livres où c'est important d'avoir une préface, parce que ça permet de rentrer dans le contexte et de...
Oui, puis de resituer
ouais, voilà, éventuellement. Les deux seraient peut-être bien. Il faudrait une préface et une postface.
Les deux postfaciers, habituellement préfaciers, ont été obéissants.
Ah, c'est très bien. C'est
oui, ils ont bien voulu se prêter au jeu.
On ne va pas gloser sur le...
Non, pas plus.
Le travail de postfacier, préfacier. J'avais envie de parler un peu des personnages. On a commencé à le faire un peu, les personnages de Jean Meckert. Alors j'avais noté aussi, pour illustrer son talent pour les débuts, puissants, le tout début de L'Homme au marteau, donc qui va être l'histoire de ce petit fonctionnaire qui vit mal sa situation de fonctionnaire, et on le comprend au fil du roman. Et voilà comment, évidemment, une partie de son quotidien, c'est le trajet, puisque c'est un Parisien. Et donc voilà son trajet en métro. À Montparnasse, c'était le premier changement. Quand il avait un coin, au côté opposé à la descente, il pouvait atteindre sans trop de bousculade son second changement au Châtelet. Chaque soir, répétition, cabas d'une main, journal de l'autre. Éternité maussade dans les trépidations, ça durait depuis toujours, c'était la vie de tous les jours, ce supplice chinois, un effet de cloche qui sonne, régulière, éternelle. Augustin Marcadet s'adossait à la vitre pour essayer de lire. Il pliait courtoisement son journal, côté politique ou côté sport. Il y portait les yeux en petit effort vague de concentration. Il ne s'agissait même pas d'essayer de penser, il suffisait de faire semblant. Grande habitude. Congrès Radsock ou Tour de France, lire un peu pour la conversation du soir et du lendemain, pouvoir discuter un peu sur la technique des Belges dans les étapes de montagne. Augustin Marcadet faisait semblant de vivre. Dans le tunnel, il regardait aussi le rail luisant et l'ombre qui courait sur le mur. Il essayait aussi de courir après quelque chose d'incertain qui ressemblait à un fantôme d'idées. La vague impression lui venait qu'il fallait préciser une pensée, ou la refouler peut-être, la garder dans les limbes, c'était bien certain. Et il se remettait à lire un peu le journal, cette gomme à effacer les fins de journée. Duglandeau avait cassé son guidon. Grand chambardement au classement général. Van Asperdonk se plaignait des coliques. Et puis les Italiens rouspétaient du réferme. Et puis Bistocchi et Di La Punaise avaient pris 2 minutes au Tourmalet. Beuh, quelle importance. Voilà. C'est le début du quotidien d'Augustin Marcadet, donc le
qui pourrait être d'actualité aussi. Hein. Ça pourrait être d'actualité encore, il est toujours d'actualité. Hein.
Voilà, c'est le trajet quotidien dans les transports en commun.
Au moment du Tour de France.
Il faut le retrouver. Ouais.
Le journal a disparu.
Bientôt encore sur Paris.
Oui. Maintenant, les gens sont sur leur tablette.
C'est vrai.
La seule modernité, c'est la tablette. Donc voilà, toujours un peu ces personnages d'hommes assez décalés. Assez impuissant. Alors effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, Augustin Marcadet, c'est d'ailleurs le nom d'un des personnages qu'on retrouve dans La Marche au canon.
Oui. Hein,
c'était peut-être pas prévu, mais que ça reste comme ça. Mais faut, voilà, va essayer de se révolter contre l'ignominie du petit chef, puisqu'il y a forcément un petit chef dans un bureau. Donc il va faire sa grande révolte, et puis il va se sentir un peu tout seul après sa grande révolte, qui ne le mènera pas bien loin. Mais voilà, ça c'est son parcours. Il y a quelque chose que j'avais envie d'évoquer, c'était son les rapports les compliqués, me semble-t-il, entre les hommes et les femmes dans les romans de Mecker, puisque alors je pense à l'homme au marteau, mais aussi à celui qu'on a évoqué tout à l'heure, la Lucarne, où les deux personnages qui ont des similitudes font une révolte, font un écart dans leurs habitudes, et puis c'est leur petite femme courageusement, malgré elle, je ne sais pas comment il faut le dire, mais vont continuer à faire avancer la vie, à supporter cet écart. Est-ce qu'elles sont plus positives pour autant que les personnages? Je ne sais pas comment. Est-ce que vous voyez ça, Hervé, Stéphanie ou Quentin si...
Alors, moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'elles aient le beau rôle. Hein, parce que,
je ne dirais pas le beau rôle.
Elles font bouillir la marmite, mais elles ne sont quand même pas capables de grand-chose de plus, ce qui est déjà pas mal.
Mais elles font face.
Puisque théoriquement, à cette époque, c'est plutôt les hommes qui font bouillir la marmite. Oui. Mais quoi que je dis ça, mais c'est pas vrai, parce que c'est les femmes qui ont fait bouillir la même chose pendant la guerre. En plus, voilà, elles font tout pendant que les hommes se battent. Mais c'est vrai qu'elles sont. On peut pas dire qu'il y ait une image très. Très glorieuse ou très positive de la femme, et en particulier dans la vie de couple.
Mais c'est un parallèle avec sa vie à lui.
Ça ressemble, oui. Enfin,
ça
fait de la psychologie de bazar, mais oui, ça ressemble quand même vraiment à ça. Et puis, comme de toute façon, toute son œuvre semble très proche, malgré tout, de sa vie, on peut dire que peut-être que ses difficultés ou ses problèmes sentimentaux se déteignent dans sa littérature.
Alors, il y a malgré tout, je pense comme toi, il y a malgré tout, à l'intérieur de certains romans, par exemple, je crois que c'est dans La Ville de Plomb, par exemple, on va trouver des thématiques, on dira peut-être un peu féministe, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a par exemple un plaidoyer pour l'avortement, on est en 1949, je crois, ce qui n'est pas très fréquent à l'époque, c'est porté par la parole féminine, justement, de Gilberte, et voilà, ça c'est une des choses rares, de même que dans un autre ordre, ça n'est pas une comparaison, mais à un moment, comme il parle du monde de l'usine, il va parler brièvement, mais il va parler des ouvriers arabes, et il ne va pas en parler avec un ça aussi, le style compte beaucoup, les mots qu'on met, c'est-à-dire qu'il ne va pas en parler avec un laisser-aller du langage très fréquent à l'époque dans la littérature, fut-elle populiste d'ailleurs.
Ah oui, ça je peux dire que j'en ai relu un paquet récemment, les romans des années 50, c'est souvent assez pénible, en fait, la manière dont on évoque les femmes et les immigrés d'une manière générale, les travailleurs immigrés, c'est rarement un vocabulaire très élogieux, pour pas dire complètement raciste.
Tout n'est plus republiable.
Ah non, là, c'est vraiment loin de là. Vraiment très très loin de là. Il faudrait faire des grosses préfaces.
Une dimension où il dénonçait, je pense par rapport aux immigrés, où il dénonçait le colonialisme, je ne me rappelle plus, d'un bouquin, Jean Lavigne et le Taureau. Il y a Hergé le Taureau, non? Il parle du colonialisme là-dedans. Mais bon,
c'est... Alors c'est plus tard, hein, puisque c'est
début
des années 70.
C'est 71.
Enfin, tu as raison, bien sûr.
Enfin, c'est pas tout à fait la même chose dénoncer le colonialisme, et ce colonialisme particulier, puisque c'est par ailleurs dans La Vierge et le Taureau, c'est la Polynésie et c'est les essais nucléaires. Voilà, donc c'est pas non plus n'importe quel endroit,
n'importe
quel territoire français.
Oui.
Et par ailleurs, on peut parfaitement dénoncer le colonialisme, mais être totalement raciste par ailleurs. Est-ce que je dis pas, enfin, je dis pas ça. Je dis pas que Mécaire, enfin, au contraire, je dis pas que Mécaire l'était. Hein, je parlais de la littérature. On parlait de la littérature des années 50. Mais c'est vrai que bon, après, c'est aussi, c'est pour peut-être que là, en effet, c'est les mises en avant. Enfin, pardon, les explications que peuvent donner une préface, c'est et sans le justifier, surtout sans l'excuser, mais c'est aussi un état d'esprit global qui fait que. À juste titre, on s'offusque aujourd'hui de choses dont, voilà, qui paraissaient parfaitement normales dans les années 50, si c'était horrible. Mais
non. Moi, je suis assez d'accord aussi avec toi, Stéphanie. Je trouve pas que les femmes soient représentées de manière très élogieuse. Alors, dans le Boucher des Hurlus, par exemple, sa mère. Oui. C'est peut-être une exception.
Oui, oui.
En revanche, les autres personnages féminins qui viennent après, bon, l'infirmière, ça peut encore aller, quoique. Les prostituées qu'ils rencontrent ensuite, au début ça va, après moins.
Toujours, en fait, il y a toujours ça. Au début ça va, même il y a des histoires d'amour. Au début ça va, assez vite ça va plus.
C'est assez classique aussi dans la vie.
Dans les bouquins, c'est pareil.
C'est assez moderne.
Oui. Ouais.
Mais en série noire aussi, de ceux que j'ai lus, c'est pareil. Les femmes, elles sont. Je sais plus, un que j'ai lu, mais c'est. C'est ouais, ça sent que ça c'est pas de, ça date pas d'aujourd'hui l'écriture quoi, c'est
ouais. Bon, après je trouve que dans les bouquins dans son vrai nom Mécaire, ça va, je veux dire c'est aussi le témoignage d'une époque, hein, faut pas non plus
contexte ouais, aussi. Mais je trouve celui-là reste quand même très d'une écriture contemporaine et il n'y a pas besoin forcément d'expliquer avant le contexte.
Par ailleurs, en fait, elles ne sont pas non plus mieux traitées ni plus mal que les hommes. C'est-à-dire que tout le monde est assez maltraité.
Oui, c'est la guerre, tout le monde, bien sûr.
Au sens générique qu'on donnait à ce terme, il y a une misanthropie de Mécaire, plutôt, il me semble. Mais voilà, qui s'explique pour des tas de raisons.
Il pointe assez volontiers les travers des uns et des autres.
Oui, ça, c'est son fort, c'est clair. Oui.
J'avais une question sur ces
mais qui ne l'amène pas, ne l'amène pas une aigreur comme pourra en avoir une aigreur et plus que ça comme pourra en avoir Louis Ferdinand Céline dont on a parlé tout à l'heure.
Tout à fait. J'allais
pardon.
Exactement. Non, mais c'est une parfaite transition parce que je voulais parler de des influences et de celles que lui a pu avoir sur la littérature et peut-être aussi de savoir si de son temps, de son vivant, il échangeait avec d'autres écrivains. Est-ce qu'il y avait des amitiés littéraires ou pas? Alors, comme influence d'écriture, effectivement, on a cité Céline, des choses comme ça.
Dénac, on connaît un peu, on l'a reçu ici, et c'est influencé. Est-ce qu'il l'a connu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est qu'il a...
Oui, on est allé voir Jean Mécaire ensemble.
Ah, d'accord. Ah, bah, je vais bien poser la question.
Voilà. Oui, mais est-ce qu'il a entretenu des relations particulières?
À la fin de la vie de Mécaire, mais de loin en loin, disons que... Mais
je me souviens pas d'avoir tellement trouvé de correspondance avec des auteurs.
Parce que plus avant, on pourrait penser par rapport, mais en fait, quand je disais, moi, c'est mon impression, c'est notre impression peut-être à ce qu'on a vu et tout et retrouvé, mais Mécaire, il n'a jamais fait partie et peut-être voulu faire partie, je ne sais pas, ça je prononce aucun jugement, mais d'un sérail quelconque d'ailleurs. Mais, et donc, par exemple, oui, il va répondre à l'invitation de l'écrivain qui a eu le Goncourt, qui est un écrivain plutôt prolétarien, Marc Bernard, qui a eu le Goncourt pour Paris à des enfants, qui coordonne un bouquin sur Lit-on encore Émile Zola, ou je ne sais plus comment ça, le titre exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'ami de Marc Bernard, qu'on pourrait penser d'ailleurs avec une correspondance, ou qu'il aurait été l'ami de, je ne sais pas, je parlais de Georges Navelle, de gens comme ça. Il n'y a pas trace tellement de... Mécaire...
Non, y compris, moi, pour avoir lu... Il a laissé des carnets que j'ai lus, qui datent des années 70 à peu près, et... En tout cas, d'une époque où il travaille pas mal pour le cinéma, enfin pour l'audiovisuel, parce que aussi pour la télé. Et il est toujours très 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 critique et très dur avec les gens avec lesquels il bosse, qui sont pas très nombreux à trouver grâce à ses yeux. Et il parle aussi à certains moments de ses débuts, mais toujours avec cette distance du gars qui sait qu'il fait pas non plus, enfin, il fait pas partie de la bande. Il a pas eu la même vie, il a pas eu le même parcours. Là, il se sent pas vraiment à sa place. Enfin, il est content pour lui, mais il se sent pas vraiment à sa place. Même, il aurait pu devenir pote avec Queneau, qui devait être un mec sympa. Ils échangent sûrement un peu, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait de ce type d'amitié. Après, c'est vraiment, on l'a pas, à vrai dire, on n'a pas documenté plus que ça la biographie précise de Mekar. On l'a fait sur des aspects pour savoir à quel moment il écrit quoi, etc. Mais sur sa vie privée, c'est vrai qu'on l'a assez. On a fait assez peu de recherches dans la mesure où nous, ce qui nous intéressait, c'était la réédition des romans et pas tant que ça, sa vie perso, quoi.
En tout cas, pas de science très large là-dessus, mais dans tout ce qui est des auteurs de la littérature prolétarienne, Serge Assis, Terragon, il y avait. Les gens n'étaient pas forcément un groupe, mais pouvait y avoir des contacts. Il apparaît plutôt pas, quoi. Pas sûr qu'il s'en revendique d'ailleurs, il apparaît assez peu dans ce...
Non, mais même politiquement, en fait, on a on a parlé là, de ses engagements, ou en tout cas de ses idées ou de ce qui transparaît dans ses livres, mais je crois qu'il n'a jamais été ni encarté au Parti communiste, ni il s'est jamais revendiqué complètement libertaire ou anarchiste.
Il dit dans plusieurs interviews qu'il est d'où le choix du pseudo, etc. Mais qu'il est anarchiste de cœur, mais lui-même reconnaît qu'il ne sait pas très bien ce que c'est être anarchiste, que c'est l'histoire de l'anarchisme. Alors, ce sont des choses qui sont.
Il y a un petit texte qui est paru chez Joseph K. Là, oui. où il décrit une visite dans une réunion d'un groupe anarchiste qui est censé être rue de Turenne. C'est assez désopilant. Ça fait pas envie.
C'est un côté plutôt pied nickelé que le
Ouais, ça sent la naphtaline, tout ça, c'est pas chouette.
On sent là aussi le roman noir, quoi. Patrick Pécherot, par exemple.
Ah bah évidemment.
Je m'en rappelle plus. Il y a un journaliste qui s'appelle genre Thomas Meckert. On voit dans deux de ses bouquins. C'est quand même pas un hasard, quoi.
Mais il a eu une importance qui fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant les années 80, plusieurs auteurs vont se réclamer de lui. Des organisateurs des tout premiers festivals de l'époque vont l'inviter. Il va d'ailleurs parfois, par exemple, c'est Sylvette Magne qui m'avait envoyé ça parce qu'elle avait retrouvé ça dans ses documents. Elle a été l'organisatrice du premier festival, je crois que c'était à Saint-Nazaire, le festival du crime. Voilà, et voilà la réponse. Elle invite en 1990 Jean Amila, qui pour elle est important. Ça a été, voilà, il est venu une fois à Reims, c'est tout. Et là, il lui répond très gentiment, mais il la remercie beaucoup, mais il lui dit aucune envie de me replonger dans le polar. Non que je considère ça comme un genre inférieur, on y trouve au contraire de véritables chefs-d'œuvre autrement valables qu'une certaine littérature d'état d'âme. Mais en même temps, même à l'époque, il est un peu une espèce d'ermite à Saint-Laurent-le-Bocage.
Il a 80 ans, on peut quand même...
Complètement. Mais ça fait... Et puis, il y a eu l'agression qui l'a suivi. Mais il n'est pas... Non, mais t'as des gens qui seraient ravis de ça, de cet engouement. Ils voient ça avec sympathie. Moi, je me souviens être allé le voir, parce que je faisais un fanzine à l'époque, et avec
raconte-nous quand même la visite.
Bon, il n'y a pas des souvenirs énormes, hein, parce qu'on est allé dans la maison de Laurel Bocage. J'étais avec deux personnes du monde libertaire, justement, et puis moi je faisais un fanzine qui s'appelait Asphalte. On va le voir, il était content de ça, il était content qu'on s'intéresse à lui. J'allais dire content, très accueillant, mais sans plus non plus. C'est-à-dire que tout cela était sympa, mais derrière, quoi. Donc, et puis voilà, donc c'est pas.
Il n'y avait pas de quoi en faire un plat.
Non, on ne dira pas ça. Après, c'était...
Agréable. Non, mais pour lui, que la manière
non,
dont
il... Non, il n'y avait pas ça, quoi en faire un plat. Et puis voilà.
Mais il n'a jamais cherché trop la mise en lumière, même quand il est dans sa période de gloire. C'est l'impression que ça donne, hein, de loin, qu'il est toujours resté un peu en retrait de ce monde où on pouvait se montrer. Donc à 80, il a encore moins l'envie.
Mais ça n'a été que la suite, enfin, je veux dire, d'une chose, à mon avis, d'un...
Enfin, il faut quand même situer que c'est une période, il est un peu sur la fin de sa vie. Il y a eu cet événement en 75, on n'y a pas assisté.
C'est ce que je dis.
Bon, il a eu ça même, plus ou moins l'épilepsie. Enfin, ça, c'est
plutôt plus que moi.
Sans trop savoir.
C'est énorme.
Après, il y a le décès de sa mère, de sa sœur. Enfin, il est un peu sur la fin de sa vie. Donc, c'est peut-être aussi. Ça en rajoute, quoi.
Ah, ben ça n'a fait qu'en rajouter, oui, bien sûr.
Dans ce que tu décris.
Bien sûr, tout à fait.
Alors peut-être avant de conclure, puisque vous avez dit qu'il y avait une réédition à venir chez Joël Losfeld,
donc
La Vierge et le Taureau.
La Vierge et le Taureau, absolument, au mois de mai.
Mois de mai, d'accord.
Oui.
Et donc, question qu'on s'est posée quand on était au restaurant, quand on déjeunait avant que tu arrives, est-ce que dans la série noire, il va y avoir d'autres rééditions de Amila?
Alors dans ce petit format qu'on consacre depuis 2 ans aux rééditions des grands textes du catalogue, malheureusement, il n'y aura pas de place tout de suite pour une nouvelle édition d'un des textes d'Amila, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de romans formidables qui méritent d'être mis un peu en lumière. J'espère qu'on a participé à ça avec Il n'y a pas de bon Dieu qui est sorti, ça y est, je ne sais plus quand on est, en novembre. C'est horrible parce que je suis toujours en train de travailler sur les textes qui seront publiés dans 6 mois ou dans 1 an, donc je suis perdue. Donc ça, c'était en novembre. On en fait 6 par an de réédition. Ça demande beaucoup de travail parce que ça demande beaucoup de lecture pour s'assurer que, en effet, le texte vaut vraiment la peine d'être réédité. Ça demande aussi d'envoyer pour les textes étrangers à des traducteurs qui font des révisions des traductions. Donc c'est assez... ça fait 6 titres, mais c'est beaucoup de boulot. Et c'est vrai que j'étais très contente de pouvoir remettre à Amila en avant, mais qu'il y a d'autres romans, d'autres auteurs aussi à qui j'aimerais donner une petite chance d'être relu par des nouvelles générations de lecteurs.
Et alors, autour de la table, est-ce qu'il y a des projets, Ronce Édition, on va laisser pousser les ronces.
Ouais, pour l'instant, petite pause, mais je reprendrai les parutions et en événement avec Saint Molotov, on sera que tous les deux cette fois-ci, mais il y a une rencontre à la Halle Saint-Pierre le 26 avril à 15h. Voilà.
Très bien, 26 avril, 15h.
Tu fais pas des expos, là?
Non, il y a un projet d'illustration pour un roman pour septembre-octobre. Donc, toujours de l'illustration, et sinon je voyage toujours pour tatouer des gens, mais pas d'expo pour le moment, non.
Tu es un tatoueur voyageur.
Tout à fait, ouais, je parcours l'Europe en fonction des demandes pour des gros projets, et autour de l'alchimie plutôt alchimie et hermétisme. Et voilà, et par contre les illustrations là sur le roman, ça sera plus autour du casino et un peu tous ces milieux-là, du coup je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est un peu dans la lignée de celui-là, c'est une vingtaine d'illustrations. Voilà.
Et je cherche. Est-ce que tout le monde m'autorise à aller encore une dernière phrase?
Avec plaisir,
avec joie.
Ça résume, lui en tout cas, c'est lui qui cause. Je suis un ouvrier qui a mal tourné, je me suis mis à raconter des histoires populistes d'abord, puis, dans ce langage qui était le mien, j'ai raconté des histoires noires. C'est une belle synthèse.
Tout à fait.
J'ai fini.
Modeste. Hervé, dépouillé des choses annoncées.
Rien de particulier. Non.
Très bien. Il nous reste à vous remercier tous les quatre.
Merci
d'être venus évoquer la réédition chez Ronce Édition de ce Boucher des Hurlus. J'ai fait la liaison. Je vais essayer de tenir le coup, j'ai fait les ans. Écrit par Jean Meckert et publié en 1982 dans la Syrie Noire, et donc là, réédité avec des illustrations de Saint Molotov. C'est tout nouveau, c'est dans les librairies, ainsi que les très bonnes librairies comme Publico, par exemple, ou Quilombo, qui ont toute la collection.
C'est où, Publico ?
Publico, 145 rue Hameau, je vais le dire après, parce que je vais annoncer deux, trois choses. Ah, et donc, toutes les rééditions parues chez Joël Losfeld, avec toujours une excellente préface, et parfois une excellente postface chez Ronce Édition. donc, merci à tous les quatre. Quelques minutes pour faire quelques annonces concernant... la programmation de notre librairie Publico, riche programmation dans le cadre du Mars féministe. Depuis le 2 mars et jusqu'au 30, il y a une exposition Histoire de grévistes d'Amande Hart. Le vernissage a eu lieu le dimanche 2 mars. Ce sont des histoires des grévistes qui ont marqué l'histoire des femmes en Europe au travers d'une série de planches. Donc, ce sont des dessins. Toujours dans le cadre du Mars féministe, mardi 18 mars à 19h, le groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste vous propose un concert avec Bertrand Ferrier et Yann Alexander. Ils chanteront Mama Bea Tekelski et Catherine Ribeiro de La Voix. Donc ça, ce sera mardi 18 mars à 19h. Mercredi 19 mars à 20h, le groupe Commune de Paris vous invite à son ciné-commune avec la projection du film En Grève de Christophe Cordier et Adeline Gonin. En 2019, les cheminots se mettent en grève contre le projet de réforme des retraites mené alors par le gouvernement d'Emmanuel... Le gouvernement du président Macron. Pendant 57 jours, caméra au point, les deux réalisateurs se... suivre ce qui deviendra la plus longue grève reconductible de l'histoire de la SNCF. La projection sera suivie d'un débat en présence de Christophe Cordier, l'un des réalisateurs. Vendredi 21 mars à 19h, c'est à nouveau le groupe Louise Michel qui vous propose une rencontre-débat autour du livre d'Isabelle Motreau, En finir avec les idées fausses sur la pauvreté, maltraitance institutionnelle. C'est publié aux éditions Carmonde. Isabelle Motreau est journaliste et écrivaine. Elle a travaillé sur France Inter, Europe 1 et collaboré pendant 12 ans au magazine Cosette en tant que directrice de la rédaction. Aujourd'hui, la violence faite aux pauvres a pris de nouvelles formes. En premier lieu, celle de la maltraitance institutionnelle et sociale. Les plus précaires en sont les principales victimes. Ils y sont confrontés au quotidien, mis de côté par la numérisation de la société, soupçonnés de mal s'occuper de leurs enfants, de mal gérer leur budget, de bénéficier de trop d'aide. Salut pauvre. Donc ça, ce sera vendredi 21 mars à 19h à la librairie Publico, 145 rue Hamelot. Et puis samedi 22 mars, dans le cadre du Mars féministe, à 16h, le cœur des sardinières. C'est le nom d'une BD, réalisée par Léa Twitou et Max Lefko aux éditions Stinkis. Léa Twitou est la scénariste, elle sera présente. Cette BD retrace la fameuse grève des sardinières de Douarnenez en 1924. Et puis dimanche 23 mars... Il se passe encore des choses à la librairie Publico. Il y aura un concert. Tomasi sera accompagné par Arnaud Delpoux. Tous deux à la guitare, une électrique et une acoustique. Critique ou romantique, les textes de Tomasi restent engagés. Sa voix chante la lumière des humains et les humains de l'ombre. Ah, tout ça, c'était la librairie Publico. Et puis, votre soirée sur Radio Libertaire n'est pas terminée. Restez à l'écoute, puisque dans quelques instants, il y aura La Société dans tous ses états. Et Mohamed reçoit Olivier Milleron, médecin hospitalier et animateur du collectif interhospitalier de défense de la santé publique et de l'hôpital. Il a récemment publié le guide des intox sur votre système de santé aux éditions textuelles. De 19h30 à 21h, Le Monde Merveilleux du Travail. 21h à 22h30, le proton se rebiffe. Il arrive que des bretons se rebiffent. Mais là, c'est un proton. Et Nestor Potkin va s'intéresser à l'ingénierie du chaos, aux ingénieurs du chaos, c'est-à-dire à toutes les manipulations de nombreux groupuscules d'extrême droite ou autres pour influer sur les élections. Voilà, ce genre de choses dont il vaut mettre au courant. Et puis, de 22h30 à 0h30, c'est Indésine, revue Underground, nouvelle émission de la grille de Radio Libertaire. Voilà, c'est terminé pour Trou Noir cette semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même place, même heure. Et nous recevrons Aurélie Stern pour son livre « Turquie, Azerbaïdjan, la danse des loups gris ». Merci à tous et à la semaine prochaine. On vous laisse en compagnie de Bernard Lavillier.
Oui, on va écouter Bernard Lavilliers pour se quitter, mais je fais part d'un message d'auditeur qui vient d'appeler. Il demande qu'on redise que Publico, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est aussi une très bonne adresse pour aider financièrement Radio Libertaire. Eh bien oui, on va se quitter avec Bernard Lavilliers, et j'ai perdu le titre État des lieux. Voilà. Au revoir.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance. Je vois des animaux clonés. Des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance. On accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassés de l'Est, stressés de l'Ouest, rusés du Nord, usés du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? De matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas ceux qui payent l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassés de l'Est, stressés de l'Ouest, rusés du Nord. Usé du sud, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition, on va payer. Je vois des océans, couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature a su, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons, l'univers qui nous juge nous donne le frisson. Cassés de l'Est, stressés de l'Ouest, rusés du Nord, usés du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassés de l'Est, stressés de l'Ouest, rusés du Nord, usés du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude? Thank you.